Let's give the Lord a wave offering. It ain't a sheep, but they tuck from the body of Paul handkerchiefs.
Hallelujah.
Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion.
We're marching upward to Zion, that beautiful
saints back there before going into the Roman circus there, start walking up that hill, you know, up that little ramp going up into the lions and saying, oh, we're a marching
to Zion. It's beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city.
Magnify his name. le Seigneur vous bénisse. Nous allons maintenant écouter la prédication de William Marion Branham, Influence, prêchée le 15 mars 1964. Donnez-moi un instant. Notre Père Céleste, nous sommes vraiment reconnaissants cet après-midi pour ce privilège de se tenir en chair, pour proclamer les richesses insondables de Jésus-Christ à un monde mourant, sans Christ, sans espoir, et sans espoir d'accompagner Jésus quand il viendra. Et nous essayons, Seigneur, de présenter Jésus-Christ aux nations. Et pendant que nous sommes réunis ici cet après-midi, que le Saint-Esprit parle et réchauffe nos cœurs et nous encourage dans la voie, que les malades soient guéris et que les pécheurs soient sauvés et que ceux qui sont découragés soient encouragés et que Dieu reçoive toute la gloire et l'honneur et que tout cela soit donné en son nom, car c'est notre but, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je suis heureux cet après-midi de me retrouver ici à nouveau, à Beaumont, et je suis généralement fatigué. Je n'ai pas arrêté depuis Noël. Sans arrêt, ce n'est pas tellement les prédications que je fais qui me fatiguent, ce sont les visions qui me fatiguent. Notre Seigneur, une seule l'a amené à se retrouver et à dire que sa force l'avait quitté. Une vision du prophète Daniel, il a dit qu'il était troublé à la tête pendant plusieurs jours. Et nous ne pouvons pas expliquer ces choses. Nous savons juste qu'il en est ainsi. Et personne ne le sait mieux que ceux auxquels cela arrive. Et donc, nous sommes heureux, cependant. Ce que j'essaie de faire, c'est d'utiliser un don prophétique pour un travail d'évangélisation. Et ça ne marchera pas comme ça exactement, c'est trop dur alors. Mais je veux dire ceci, quand je serai au bout du chemin et cette ville se lèvera et si cette génération dans les derniers jours, je ne veux pas avoir le sang d'aucun homme sur moi. Je veux être libre de tout sang. Et j'ai fait de mon mieux pour le présenter de manière scripturaire, ce ministère que le Seigneur m'a donné, de toutes les manières possibles. Et je sais que le Saint-Esprit, par sa grâce, me laisse vivre. Je ne pense pas qu'il y ait eu de traces. Je suis reconnaissant pour vous. Frère Perry Green et pour ses frères ici présents qui ont déployé des efforts pour faire de cette réunion un succès. S'il y a quelqu'un de perdu dans cette ville, dans cette génération, ce ne sera certainement pas mis sur leur compte parce qu'ils ont tout mis en œuvre pour en faire un succès. Nourrir les gens, leur trouver des endroits pour dormir et à la télévision, partout, ils prennent l'argent directement de leur poche et l'utilisent pour que ils savent que la foule que nous sommes ne serait pas en mesure de soutenir un tel montant. Ils l'ont donc pris de leur propre poche pour le faire. Donc, je pense que c'est merveilleux. Comme quelqu'un avec une vision comme ça, je crois que cela a été dit dans Hébreux, le 11e chapitre, de qui le monde n'était pas digne et de s'en prendre au temps où le ministère est si impopulaire parmi trop de gens qui devraient le croire. On en a parlé, mais quand quelque chose arrive, ils ne le voient pas. Mais ça doit être comme ça. Vous devez juste redresser vos épaules et continuer à marcher et savoir cela. Rappelez-vous, avant tout, c'était la même chose. Ils marchent droit sur le même chemin. Les gens n'ont jamais connu l'heure de leur visitation. Aucun des prophètes n'a été connu. Jésus a dit, vous les avez mis dans les tombeaux, vous ornez leurs tombeaux maintenant. Vous êtes ceux qui les ont mis, lesquels Dieu a-t-il envoyé que vous n'avez pas persécuté et tué? Prenons-le à partir de ce moment-là. Descendons à travers Lurtin, Luther et traverser, eh bien, Irénée et Saint-Martin et tout au long des âges, et cela a été la même chose, même pour Jonah, Jeanne d'Arc, une prophétesse du Seigneur. Et vous, les catholiques, quand cette femme voyait des visions et ainsi de suite, elle leur disait, elle s'accomplissait comme elle l'avait dit. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez brûlée sur le bûcher pour une sorcière. 200 ans plus tard, vous vous êtes réveillé et vous avez découvert que vous aviez, ce que vous aviez fait, bien sûr. Ils ont fait pénitence, ils ont déterré les corps et ces prêtres qui l'avaient brûlé et les ont jetés dans la rivière. C'est une grande pénitence à faire. Ils l'ont manqué, ils ont dit que Saint-Patrick était un catholique romain. Quoi que connaître l'histoire, c'est que c'est faux. Il était absolument fermement en désaccord avec le pape. Il n'est jamais allé s'asseoir, il n'y croyait pas du tout. Sucat était son nom, ce n'était pas Saint-Patrick. Mais après sa mort, vous avez tué des milliers de ses enfants. Ces écoles, ils ne prenaient pas de crucifix ou rien d'autre dans ces écoles et cela tient toujours en Irlande du Nord aujourd'hui. La même chose, ils ne laissaient pas cela entrer dans ces écoles. Il a dit les gens regardaient des images au lieu de voir ce qu'ils voulaient qu'ils voient. Ils avaient la puissance du Saint-Esprit, ils parlaient en langue, il y avait de grands miracles et des signes. Pourquoi? L'Église ne prêche pas cela aujourd'hui, voyez? Et tous ces gens-là, ils ne le reconnaissent jamais avant qu'ils ne soient plus. Mort et là, nous essayons de construire leur tombeau. C'est véritablement ce que nous vivons. L'Église vit toujours dans l'éclat de lumière du jour passé. Alors, un éclat de lumière est une fausse lumière. Qu'est-ce qu'un éclat de lumière? C'est un mirage sur la route. Le soleil brille et crée un mirage. On dirait de l'eau, mais vous ne pouvez jamais y parvenir. Elle n'existe pas. C'est comme ça que les gens font aujourd'hui. Ils promettent quelque chose qui va être loin ou quelque chose qui est au fond là-bas ou ici, mais ils n'y parviennent jamais. Je suis tellement reconnaissant que notre Dieu n'est pas un Dieu comme ça. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous arriverons quand nous le croyons. C'est juste là tout ce qui est promis pour l'âge. Cela rend cela difficile, mais pourtant, nous devons aller de l'avant, croyant. Et j'apprécie certainement votre bonne coopération pendant notre séjour en ville. J'étais ici il y a bien des années avec mon vieil ami frère Bosworth et Raymond Ritchie. Et beaucoup de frères sont venus ici. Je crois toujours le même évangile. Je n'ai pas changé du tout. Je suis toujours le même. Mais voyez-vous, le réveil se poursuivait alors. Et là où il n'y a pas de réveil, vous ne pouvez tout simplement faire avancer les choses. Le ministère est beaucoup plus avancé. Cela ne faisait que vous dire que cela viendrait. Combien s'en souviennent? Bien sûr, vous le savez. Et ça vient exactement comme c'était dit. Alors, je prenais alors les gens et leur imposais les mains. Je vous ai dit ce qu'ils m'avaient dit et c'est comme ça que ça s'est passé. Très exactement. Ça ne manque jamais d'être la vérité à chaque fois. Donc, cela doit venir de Dieu. Personne ne pourrait en douter. Mais vous voyez, le réveil n'est pas là. Juste votre présence pour marcher avec les gens, eh bien, les gens sortiraient des lits et des brancards. Ils marcheraient, poser simplement vos mains sur eux. Oh, oh là là! Cela fait simplement réagir. J'ai vu des lignes où il y avait 400-500 personnes qui venaient dans une ligne sourd-muet, aveugle, les yeux qui louchent. Aucune d'entre elles ne manquait d'être guérie. Chacune d'elles essayait cela aujourd'hui. Vous voyez? Il n'y a pas de feu. À Rome, lorsque les incendies se sont produits dans le temple à Vista, les gens sont rentrés chez eux, voyez. Maintenant, il n'y a pas de feu de réveil pour les sauver, voyez. C'est juste. C'est ça. Après un certain temps, si le monde continue, ils recommenceront à vivre dans l'éclat de lumière, voyez. Et c'est comme ça que cela a toujours été. Ça se passe par-dessus, sans les toucher. Et cette génération doit être jugée pour ce qui est passé par-dessus eux. Ils ne le voient pas. Jésus-Christ est vivant cet après-midi. Il marche avec vous maintenant. Il est toujours présent partout où deux ou trois sont assemblés en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Vous croyez cela, n'est-ce pas? J'espère que si le Seigneur tarde, je reviendrai et je serai avec vous un jour encore. Je ne vous vois plus jamais quand je vous rencontrerai là-bas au siège du jugement de Christ où nous rencontrerons tous. Souvenez-vous, je vous ai dit la vérité, je vais encore le dire quand je vous verrai là-bas. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse richement. Priez pour moi, j'ai besoin de vos prières. Je ne suis pas aussi jeune qu'à l'époque. Cela fait environ 12-14 ans. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, « Quel âge avez-vous, frère Branham? » J'ai dit, « Je viens de passer 25 ans. » J'ai dit, « Il y a 25 ans, je l'ai passé. » Et vous pouvez le dire, seulement quand un homme, quand vous naissez, vous commencez à grandir comme une bougie que vous brûlez. Vous êtes allumé, mais vous grandissez jusqu'à environ 22 ou 23 ans, peu importe la façon dont vous prenez soin de vous-même. Vous commencez à mourir jusqu'à ce que vous continuiez de descendre de plus en plus jusqu'à ce que ça s'éteigne. Et j'ai demandé dans un Kiwanis, un jour où je parlais, j'ai dit, je veux quelqu'un, un médecin m'a dit, je ne peux pas croire que l'histoire de Christ, je ne peux pas croire à la naissance virginale. Il a dit, je ne crois pas qu'il y ait une telle chose. J'ai dit, la naissance naturelle est plus mystérieuse pour moi que la naissance virginale. La naissance naturelle naturel de voir comment cela se passe et comment c'est décidé. Quand il est pollinisé, quel œuf, quand il y a des milliers de germes et des milliers d'œufs, ce ne sont pas les premiers qui se rencontrent qui règlent la question, mais peut-être vous dites, eh bien, s'il y en a deux à l'avant, oh non, vous voyez, ça va rester. Peut-être qu'il y en a un qui s'avance, le germe complètement à l'arrière du sperme, de ce côté-ci, l'œuf du milieu de ceci et de cela va être une fille ou un garçon, aux cheveux noirs, aux cheveux roux, aux yeux bleus, ou peu importe ce que ça va être, quelque chose prend sa décision. Les autres sont laissés de côté. C'est tellement mystérieux de voir l'œuvre de Dieu et de voir les gens avec leurs petites pensées limitées comme nous essayons de nier ses grandes œuvres. Cet homme m'a dit, eh bien, il ne pouvait pas rien croire, il ne pouvait pas être prouvé scientifiquement. J'ai dit, croyez-vous que vous avez une âme? Il a dit, bien sûr. J'ai dit, alors prouvez-moi scientifiquement que vous en avez une. J'ai dit, vous croyez que l'amour existe? Il a dit, bien sûr. J'ai dit, vous aimez votre femme? Oui. Alors, montrez-moi scientifiquement quelle partie de vous est l'amour. Je veux en acheter. Je vais à la pharmacie ou ce que ce soit. J'en ai besoin de beaucoup. J'aimerais pouvoir acheter de l'amour, voyez. Toute l'armure de Dieu est surnaturelle. L'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la douceur, la patience, le Saint-Esprit. Voyez, chaque armure du croyant regarde l'invisible, croyant ce qui est dit. Voyez, vous ne voyez pas ce que vous croyez. Voyez, non, vous ne voyez pas de toute façon. Vous le regardez avec vos yeux, vous voyez avec votre cœur, vous voyez. Lorsque vous regardez quelque chose, vous dites, je ne le vois tout simplement pas, vous voyez. Vous voulez dire que vous ne le comprenez pas, vous voyez. Alors, je lui ai demandé ceci. J'ai dit, si j'avais une cruche d'eau et que je posais un verre ici et je verse de l'eau de cette cruche dans le verre et qu'elle était moitié plein, et puis je continue à verser de l'eau, puis ça commence à descendre. Dites-moi scientifiquement où va l'eau. Voyez, j'ai dit, quand j'avais 16 ans, je mangeais la même nourriture que je mange en ce moment, des haricots, du pain, des pommes de terre et de la viande. J'ai dit, chaque fois que je mange, qu'est-ce que ça fait? Cela produit des cellules sanguines. Je suis devenu de plus en plus fort tout ce temps, et quand j'ai eu environ 22 ans, je mange plus et mieux maintenant qu'à ce moment-là, car je ne l'avais pas à manger. Alors, je mange plus et mieux qu'auparavant. Maintenant, je vieillis, faiblis. Et pourtant, cette nourriture produit des cellules sanguines. J'ajoute de la vie nouvelle continuellement et j'ai faibli continuellement. C'est un rendez-vous. Nous allons le respecter. C'est avec Dieu. C'est vrai, nous allons le faire. Vous ne pouvez pas prouver scientifiquement Dieu. Vous croyez juste en Dieu et vous le croyez selon sa parole. Maintenant, cet après-midi, je tiens à remercier chacun d'entre vous. La gentille petite sœur là-bas sur le piano, celle-ci par ici, et vous tous, ministres, chacun de vous, le Seigneur vous bénisse. La nuit ne sera pas trop sombre, la pluie ne tombera pas trop fort pour m'empêcher de vous aider si je le peux. Je disais que je pouvais venir vers vous, mais il y en a trop maintenant. J'ai traversé le monde entier, vous voyez, c'est partout. Appelez-moi ou écrivez-moi une lettre, je vais vous envoyer un tissu de prière, tout ce que je peux faire. Tout est gratuit, il n'y a pas d'argent là-dedans, vous voyez. J'ai gardé mes réunions comme ça pour pouvoir venir et ils n'ont pas d'argent. J'ai tenu une réunion il y a un peu de temps dans un tabernacle qui ne comptait que 20 personnes. Deux soirs de réunion, c'était affreux, environ 10, en dessous de zéro, mais le Seigneur m'a envoyé là-bas. De grandes choses sont arrivées. Je n'ai pas de grands programmes à la radio, à la télévision. Toutes ces choses-là, d'autres frères ont ça. Ils sont peut-être intelligents, des hommes intellectuels. Ils savent comment faire et le Seigneur leur accorde, comme Oral Robert et les hommes comme lui, qui doivent avoir des milliers de dollars par jour. Ils ne peuvent pas opérer autrement. Et c'est pour moi une bonne cause, mais ce n'est pas pour moi. Je voulais que le mien respecte et humble, peu importe où je dois aller ou peu importe où Dieu m'appelle. Je n'ai rien pour me retenir, alors je décolle et je vais où que cela soit. C'est mon ministère. Priez pour moi que le Seigneur m'aide à garder la foi, à ne pas regarder en arrière, mais de regarder en avant où je vais, ne pas regarder où je suis allé, mais regarder où je vais, ou bien ces choses du passé. Nous courons vers le but de la vocation céleste en Christ. Je vais lire quelques extraits de la Bible de Dieu aujourd'hui, choisir juste un petit texte, car je vous disais que j'allais prier pour les malades cet après-midi. Tous ceux qui ont des cartes de prière, pour ceux qui désirent que l'on prie pour eux, nous le ferons. J'essaie toujours de garder ma promesse. Maintenant, quelqu'un, lorsque vous dites cela, vous dites, eh bien, vous avez promis d'être un certain endroit. Je crois bien qu'il y a 4 ou 5 endroits aux États-Unis, ici, où je suis censé être aujourd'hui, où quelqu'un a dit que j'y serai. Je n'ai pas dit que je serai là, mais ils le disent, voyez-vous, ils le mettent dans le journal, ils l'appellent à la maison tout le temps. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ils disent à ma femme ou à des employés du bureau, eh bien, il était supposé être ici, ils l'ont annoncé ici. Eh bien, c'est annoncé dans le journal, je n'en savais rien du tout. Je ne peux rien y faire, je suis suis seulement responsable de ce que j'ai dit moi-même. Alors, maintenant, cet après-midi, je veux que encore une fois, si nous voulons nous lever pour la lecture de la parole, et nous allons essayer de sortir dans environ une heure, si le Seigneur le veut, afin que vous puissiez être rafraîchis pour aller à l'église ce soir. Et la raison pour laquelle nous avons ces réunions, c'est le dimanche après-midi, c'est pour n'enlever personne de vos églises. Les gens qui désirent que l'on prie pour eux, les malades et les affligés, eh bien, nous devrons toujours prier pour eux. Alors, cela n'interrompt pas votre service. Peu importe, il y a beaucoup de fois où il y a un homme que je ne suis pas d'accord, et ils ne sont pas d'accord avec moi. Mais si cela ne peut pas être sur la tolérance et sur la pensée d'une meilleure communion fraternelle et ces choses, alors je n'ai rien à dire à ce sujet. Je peux être en désaccord avec un homme si souvent je ne peux pas mettre mon bras autour de lui et de mon cœur, savoir qu'il est mon frère, alors je ne devrais pas lui parler. C'est vrai, nous devons faire ça maintenant. Si vous voulez prendre dans la Bible, rendez-vous au chapitre 6 d'Isaïe. Je veux le lire cela cet après-midi pour le service de clôture, prendre un sujet. L'année de la mort de Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les panses de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun avait six ailes, deux dont il se couvrait la face, deux dont il se couvrait les pieds et deux dont il se couvrait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, 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 et l'Éternel, Dieu des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Inclinons la tête. Bienveillant, Seigneur, prends ces paroles et que la méditation de notre cœur te soit maintenant acceptable. Puisse le grand Saint-Esprit agir dans les lèvres du locuteur et des oreilles de l'auditeur, afin qu'ensemble cela puisse honorer ton nom à travers ta parole, car nous le demandons pour la gloire de Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais faire attention maintenant afin que nous puissions avoir beaucoup de temps pour le service de prière. Maintenant, écoutez bien attentivement alors que j'essaie avec ces quelques écritures et notes que j'ai écrites ici de parler. Parfois, je ne suis pas fatigué et épuisé. Je n'écris jamais une écriture si je ne sais que je peux m'en souvenir. Mais ces derniers temps, je viens juste de le faire, alors parfois je ne peux pas m'en souvenir, donc je ne fais que la noter ici, un petit quelque chose comme une certaine écriture, je sais que cela signifie et je pars de là. Je veux parler au sujet de l'influence. Maintenant, vous savez, il y a quelqu'un que vous influencez. Votre vie est une épître écrite, lue de tout homme. Par conséquent, si votre vie n'est pas conforme à votre témoignage ou à votre témoignage, à votre vie, plutôt il y a vous mettez une pierre d'achoppement devant quelqu'un, car quelqu'un vous observe. Un petit enfant regarde sa mère et regarde son père. Ici, il y a quelques années, j'ai lu un petit article au temps de Noël qui était, cela a certainement réchauffé mon cœur. C'était triste, car un homme était sorti. Il était un homme, une bonne personne. Il ne buvait pas vraiment, mais il était sorti au temps de Noël et avait rendu visite à ses collègues et lui avait tous dit, « Jean, prends-en un peu, juste un petit verre. » Et de maison en maison, il en a trop bu. Il devait rentrer chez lui. En traversant le parc, son petit garçon était avec lui. Le petit garçon, lui, Lui manquait et se retourna et regarda, et le petit garçon allait d'un côté et de l'autre. Et le père a attendu que le petit garçon l'atteigne. Et il a dit, « Pourquoi vas-tu partout dans le parc, mon fils? Qu'est-ce qui te fait marcher comme ça? » Il a dit, « Papa, j'essaie de marcher dans tes traces. » Et c'est vrai. Vous voyez, l'homme prit le petit garçon et s'assit, prit le petit dans ses bras et dit, « Mon Dieu, pardonne-moi, je veux marcher droit, alors mon fils derrière moi marchera droit. » Et c'est ce que nous voulons faire en tant que chrétiens. Nous voulons marcher comme des chrétiens, vivre comme des chrétiens, parler comme des chrétiens. Il y a de nombreuses années, quand il y avait de l'esclavage dans le sud, ils descendaient au Kentucky, en Alabama, et là d'où je viens, ils avaient l'habitude de prendre les gens de couleur et de les vendre aux enchères, à la vente aux enchères, comme si vous aviez des voitures usagées ou quelque chose. Je crois qu'aucun homme ne doit être un esclave. Dieu a créé l'homme, et l'homme a fait des esclaves, et ils avaient l'habitude de venir et de les acheter. Tout comme vous achetiez une voiture d'occasion, obtiendrez une facture, etc. C'était une chose terrible. Alors, un jour, un acheteur est arrivé chez un courtier d'une certaine ancienne plantation où il y avait beaucoup d'esclaves, et il a dit, « Combien d'esclaves avez-vous? » Oh, il a dit, environ 150 là-bas, je suppose. Et il a dit, puis-je sortir et les regarder? Il a dit, bien sûr, servez-vous. Il sortit donc pour regarder les esclaves, et quand il regardait autour de lui, il remarquait que ces gens étaient tous tristes. Les boilers, ils avaient amené d'Afrique, et les ont déchargés à Cuba, puis les ont envoyés ici, dans le sud, et les ont vendus pour esclaves. Et ils savaient qu'ils ne rencontraient jamais chez eux, ils savaient qu'ils ne verraient plus jamais leur père et leur mère, ni leurs enfants, ni leur mari, leur femme, et ainsi de suite. Ils étaient victimes des circonstances indépendamment d'eux-mêmes. Ils étaient là, loin de chez eux, tristes, et parfois ils devaient prendre des fouets et les fouetter comme ils font sur une bête, du bétail, des bœufs, des chevaux et ces choses, et pour les faire travailler. Et ce qu'ils ont remarqué, ce jeune courtier a remarqué qu'il y avait un de ces jeunes esclaves qui n'avait pas besoin d'être fouetté. Il avait le menton levé, les épaules en arrière. Il était vraiment à son affaire tout le temps. Il n'avait pas besoin de le reprendre. Il faisait le travail. Alors le propriétaire des esclaves a dit, le courtier a dit à ce propriétaire, a dit, j'aimerais acheter cet esclave. Il a dit, oh non. Il a dit, il n'est pas à vendre. Il a dit, eh bien, pourquoi n'est-il pas à vendre? Il a dit, qu'est-ce que vous... Il a dit, qu'est-ce qui le rend comme ça? Il a dit, est-ce qu'il est le patron sur les autres? Il a dit, non, c'est seulement un esclave. Il a dit, le nourrissez-vous différemment des autres? Il a dit, non, ils mangent tous dans la cuisine ensemble. Il a dit, c'est juste un esclave. Il a dit, mais qu'est-ce qui le fait agir différemment des autres? Il a dit, vous savez, je me suis souvent demandé ça, moi aussi, jusqu'à ce que je découvre que dans sa patrie, là où il venait en Afrique, son père est le roi d'une tribu. Et malgré qu'il soit un étranger loin de chez lui, il sait qu'il est le fils d'un roi. Et il agit comme tel. Oh là là! Qu'est-ce que les chrétiens devraient faire? Nous sommes les fils et les filles du roi. Bien que nous soyons des étrangers, agissons comme des fils et des filles. Femmes, laissez pousser vos cheveux, cessez de porter le type de vêtements que vous portez, moraux et ces choses. Hommes, devenez ce qu'un homme devait être et n'agissez comme des fils et des filles de Dieu. Ici, vous êtes un étranger, mais souvenez-vous, nous sommes les fils du roi. Voyez l'influence que cet homme a eue sur les autres. Son comportement moral gardait l'espoir des autres au plus haut niveau. Nous découvrons que ce roi Ozias était un jeune berger à l'époque d'Ésaïe, le prophète. Ésaïe était un prophète. Les prophètes le sont de naissance. On ne leur impose pas les mains pour en faire des prophètes. Ils naissent et ils sont prédestinés de Dieu. Les dons et les appels sont sans repentance. Il existe un don de prophétie dans l'Église. Il doit être jugé par trois personnes avant que la voix puisse être entendue dans l'Assemblée. Mais ce n'est qu'un don de prophétie. Mais un prophète est absolument ordonné par l'ainsi dit le Seigneur depuis sa tendre enfance et tout au long de sa vie. Et Ésaïe était un prophète du Seigneur, et il avait été amené au temple. Cet Ozias, ce jeune berger, a une grande influence sur ce jeune prophète, parce qu'il est dit d'Ozias dans 2 Chroniques 26 qu'il est devenu roi d'Israël alors qu'il n'avait que 16 ans. Son père, Amatsia, mourut. Il prit sa place pour gouverner, car c'était la coutume pour un fils de succéder au roi. Et ils l'ont pris, ils l'ont fait roi à l'âge de 16 ans. Amathia était un grand homme, il était un homme saint, et d'avoir eu ce saint parent, eh bien, ça lui faisait faire ce qui était juste parce qu'il avait été influencé par son père, vous voyez.
It made him do the thing that was right because he was influenced by his father.
Aujourd'hui, comment pouvez-vous vous attendre à ce que nous n'ayons pas plus d'Oswald et de Jack Burry? Regardez, j'ai quitté le motel il y a quelques instants. Il y avait un tel désordre là-bas, une buverie avec une bande de Californiens. Ils étaient étendus là-dehors, les femmes toutes déshabillées dehors, avec juste un petit peu de bretelles autour d'elles ou quelque chose de genre là-dehors. Il y avait un homme qui buvait du whisky avec de la glace et des trucs. Il faisait des histoires et il tombait autour de la piscine. Comment voulez-vous que leurs enfants et les jeunes qui sont là dans la cour en train de jouer autour deviennent autre chose qu'un Oswald ou quelque chose du genre? C'est l'influence qu'on met devant leurs yeux. Oh, l'Amérique est pourrie jusqu'à la moelle. Elle va récolter ce qu'elle a semé. Un Dieu juste ne peut pas laisser s'en tirer comme si de rien n'était. Vous êtes-vous un homme? Bien sûr que je suis américain. Dans les champs, en Allemagne ou au Japon, il y a des tombes américaines qui sont gravées partout là-bas avec le nom de la famille des Branham. Et je devrais y aller. Je donnerais ma vie pour ça. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Nous avons besoin d'un remue-ménage. Cette nation en a besoin. Les choses que nous avons déjà eues, nous les avons perdues. Nous essayons de vivre de la réputation de ce que quelqu'un d'autre a fait. Nous récolterons pour avoir fait cela. Dieu avait fait d'Israël un peuple selon son propre cœur et il leur avait fait récolter ce qu'ils ont fait. Nous récolterons aussi pour ce que nous faisons. Nous n'avons rien d'autre devant nous à part de récolter. Nous avons franchi la ligne de la grâce et de la miséricorde. Il ne reste plus que de la récolter. Inscrivez ça dans vos Bibles. Je suis un vieil homme. Mais inscrivez cela et voyez si c'est vrai ou pas. Peut-être que quand je serai parti ainsi de suite, vous découvrirez que ces paroles sont vraies. Nous allons y goûter. Nous sommes pesés dans la balance et nous avons été trouvés légers. Il n'y aura aucune issue. C'est juste. Nous avons franchi la ligne. Vous devez récolter ce que vous semez chaque fois. Alors, ce jeune homme avait une telle influence sur le jeune roi avait une influence sur le jeune prophète. Il s'appuyait sur ce prophète parce qu'il savait qu'il était un prophète. Il avait tout le temps avec lui et il bénéficiait de l'influence de ses visions qu'il recevait de Dieu et ainsi de suite afin de savoir comment diriger son royaume. Et cela a fait de lui un grand homme. Il a ignoré la politique de l'époque et les opinions populaires. Il a servi Dieu avec un cœur sincère. C'est le genre de président dont nous avons besoin. C'est le genre de chef dont nous avons besoin à la tête des gens et de toutes les nations, n'importe où. Son royaume était comparable à celui de Salomon. Dieu le bénissait simplement et n'épargnait aucune bénédiction car il le servait. Et c'était une aide considérable pour le jeune Ésaïe parce qu'il voyait comment Dieu bénissait ceux qui étaient fidèles à sa parole. Peu importe comment les choses étaient difficiles, il demeura fidèle à cette parole. Et c'est un exemple pour nous aussi aujourd'hui de rester fidèle à la parole. Et cela a eu une grande influence sur lui. Et là, il a planté des vignes. C'était un berger. Il avait toutes sortes de troupeaux et de vignes. Si vous voulez lire, c'est là dans 2 Chroniques 26 et à différents endroits dans les Écritures. Et ça parle d'Ozias. C'était un grand homme, lui. Il aimait le plein air et c'était un si bon gars. Dieu a béni tout ce qu'il a fait. Il a tout simplement prospéré. Il est allé de l'avant et aucune nation ne l'en mettait. Elle avait peur de lui parce qu'il servait le Seigneur Dieu qui était avec lui. Non pas parce qu'il avait peur de sa force militaire, mais il avait peur de Dieu qu'il servait. Cela devrait être notre mémorial. En Dieu, nous croyons. C'est ce qui est inscrit sur nos dollars. Mais je me pose la question des fois, parfois. Eh bien, tout cela s'est passé. Cela nous sert ici d'exemple. J'aimerais m'en servir cet après-midi pour montrer comment Dieu peut bénir un homme et en faire un grand homme. Mais vous savez, quand ce roi s'est senti en sécurité, qu'il a senti qu'il était dans un endroit où il était absolument ancré, qu'il n'y avait aucun moyen pour lui de ne jamais chuter, il s'est enorgueilli. C'est à un moment-là qu'il a dégringolé. C'est là que n'importe qui dégringolera. Je pense que c'est ça le problème avec les nombreuses personnes aujourd'hui. Nous nous élevons. Je pense que c'est ce qui pousse les organisations à faire ce qu'elles font. Ils ont une classe supérieure, ce qu'ils appellent une classe plus intellectuelle. spirituelle, une classe supérieure de gens, pense-t-il. L'homme, les études, tous les ministères ont reçu un enseignement secondaire et universitaire, fait 2 ou 3 années de psychologie, puis ils ont passé des tests mentaux et ont enregistré leurs ondes cérébrales et tout pour voir s'ils étaient faits pour le boulot. Et parfois, ils ne connaissent rien de plus de Dieu qu'un lapin au sujet d'une paire de raquettes. C'est vrai, c'est juste l'aspect mental n'a rien à voir avec ça. C'est la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas dans votre esprit, c'est dans votre cœur. C'est juste, en effet, puis ils se sont élevés. Nous fréquentons la meilleure église en ville. Nous faisons partie de la première église. Nous fréquentons la même église que la mère. Nous faisons partie de ceci. Toutes ces choses-là, voyez ce que c'est. Alors les gens ne peuvent tout simplement pas supporter d'entendre ça. Ils pensent bêtement que vous n'êtes qu'une personne terrible. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de place pour la semence arrive à s'ancrer. Il n'y a rien sur lequel elle peut se reposer. C'est juste du roc. Ça ne prendra jamais. Les oiseaux volent autour et la ramassent, dit la Bible. Mais quand ce roi s'est élevé et qu'il s'est senti en sécurité, il s'est enorgueilli. Je remarque que bien souvent, nous voyons que même des personnes telles que les évangélistes parviennent à un endroit où beaucoup d'entre eux ont été accusés de choses et peut-être que certains sont vrais, comme de boire et ainsi de suite. Et ce qu'il y a, je pense, c'est qu'ils se construisent un petit royaume autour d'eux et ils pensent que les gens les aiment tellement qu'il n'y a aucun moyen pour ces personnes. Elles peuvent simplement faire tout ce qu'elles veulent et ces gens-là vont fermer les yeux là-dessus. Les gens peuvent-ils maintenant, qu'en est-il de Dieu? C'est là que nous manquons de le voir. C'est Dieu qui est celui qui examine tout ça. Voyez, Dieu le sait. Quand vous voyez la véritable lumière et que vous la rejetez, Dieu sait ce que vous avez fait. Vous n'irez jamais plus loin avant d'être revenu à cet endroit à nouveau. Vous ne pouvez pas passer par-dessus ça. Vous devenez revenir à l'endroit où vous avez dévié. Il s'est tellement élevé dans son esprit. Il est devenu si sûr de lui et tout, au point qu'il a essayé de prendre la place de ministre. Il a essayé d'entrer et d'offrir de l'encens, comme nous savons que cela est fait dans la Bible, et de brûler l'encens, et que seul le Lévite pouvait faire. Un prêtre moins pour cette tâche, il a essayé de prendre sa place. Et ici, nous avons une influence qui vient de son roi pour que les gens sachent que cette imitation charnelle les uns des autres aujourd'hui, ce n'est pas du Seigneur. Vous n'êtes pas ordonné de telles choses. Vous ne prendrez jamais la place d'un autre homme, et un autre homme ne peut pas prendre votre place. Trouvez votre place et restez-y, voyez. Je pensais, maintenant, béni soit Dieu, je suis un roi et le Seigneur a été bon envers moi. Je peux faire ça, je l'ai, c'est mon ministère. Puis il a réalisé qu'en continuant de ça, en essayant d'en faire plus, il n'était plus béni par Dieu pour le travail qu'il avait à faire. Si vous êtes un bon laïc, demeurez un bon laïc. Si vous êtes une bonne femme au foyer et que Dieu vous a béni en tant que femme au foyer, qu'il vous a rendu fidèle au... Et juste, ça a continué simplement à être cela. Ne commencez pas à penser que Dieu vous a appelé à être prédicateur ou diacre ou quelque chose d'autre. Et c'est la même chose pour vous, les hommes. Là où Dieu vous a béni, demeurez-y, car c'est là qu'il vous a établi. Faites seulement ce qu'il vous a dit de faire. Et remarquez là où il vous bénit. Maintenant, n'essayez surtout pas d'intervenir. C'est à la base du mouvement pentecôtiste. Quand Mme McPherson, alors que je lisais son livre, je n'étais encore ministre à son époque, ils ont dit que quand elle quittait la plateforme, avec ses, comme des ailes, vous savez, une sorte de robe comme ça. Chaque femme prédicateur portait la même chose. Chacune d'elles transportait sa Bible de la même manière que Mme McPherson. Avez-vous déjà écouté ces programmes à la radio? Toutes les personnes disaient que le Seigneur te bénisse. Vraiment beaucoup, mon ami. Un vrai Billy Graham. Ça, c'est une imitation charnelle. Je lisais l'histoire de Martin Luther et l'histoire disait, ce n'est pas tant un ministère que Martin Luther ait protesté contre l'Église catholique et qu'il s'en soit tiré. Mais c'est un... C'en est un qui soit arrivé à garder la tête au-dessus de tout le fanatisme qui a suivi son réveil, c'est vrai. Tenez-vous à quelque chose de clair et net. Et ce qui concerne votre appel, restez avec la parole de Dieu et ne vous en écartez pas pour rien au monde. Et restez demeurer fidèle à votre appel. S'il vous donne un travail là-bas en tant que fermier, soyez un bon fermier. Dieu vous bénit dans votre tâche et payez votre dîme et peu importe ce que c'est, vos offrandes et vous aidez le ministère à avancer. S'il a fait de vous un mécanicien et qu'il vous a béni dans ce travail, restez là et remerciez-le. Voyez, restez simplement là où Dieu vous appelle. Nous voyons ici une influence. Et alors, quand on tentait de le corriger, le ministère a couru après lui et lui a dit, hey, attends une minute, tu n'as pas été appelé pour ça. Oh, comme s'il s'est mis encore là, il était prêt à lui faire couper la tête. Voyez, il y en a une autre chose que nous devons savoir. Peu importe combien Dieu vous a béni, vous n'avez pas le droit de réprimander les oints du Seigneur ou de dire quelque chose contre eux, c'est vrai. C'est Dieu de s'occuper de ça et doit être corrigé. Ce sont ses enfants, laissez-les tranquilles. Vous n'êtes pas censé faire ça, voyez. Et quand vous mentionnez leurs péchés aux gens, que vous leur dites qu'ils se trompent, sortez, n'essayez pas d'aller au ciel simplement à partir d'un système organisationnel ou quelque chose. Oh là là, bonté divine, ils veulent exploser, ils le feront, ils veulent vous trouvez des défauts et ils ne s'assieront, soiront même pas avec vous pour vous écouter, se lèveront et sortiront et impolis avec ça, en se conduisant n'importe comment. Vous voyez, cela démontre que vous, que pour commencer, ils sont mal élevés, qu'ils ont reçu une mauvaise éducation, certainement. Mais nous réalisons que ce gars-là a adopté cette attitude en faisant les choses qu'il avait faites. Et qu'est-ce qui se passe avec lui? Le Seigneur l'a frappé de lèpre, juste ici, dans le bâtiment, et de la quoi la lèpre est-elle? Le type du péché, de l'incrédulité. Il n'y a pas d'autre péché que l'incrédulité. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Et le péché est la seule incrédulité qui soit. Une fois, je prêchais dans une église méthodiste et j'ai dit, fumer des cigarettes, ce n'est pas un péché. Commettre l'adultère n'est pas un péché. Prendre le nom du Seigneur en vain n'est pas un péché. Ça en était trop pour une sœur. Elle s'est levée et elle a dit, je vous prie de me dire, référent, prenable, qu'est-ce que le péché? J'ai dit, l'incrédulité. Vous faites ces choses parce que vous ne croyez pas. C'est exact. La raison pour laquelle vous refusez de marcher dans la lumière de la parole, c'est parce que vous ne croyez pas la parole. Cela fait de vous un incroyant. Un gars m'a dit, je me fiche du nombre de cas que vous pourriez me montrer et du nombre de cas que le médecin pourra me montrer concernant les différentes guérisons. Il a dit, je ne crois pas à la guérison. Ça n'existe pas. J'ai dit, certainement, cela n'a pas été envoyé aux incroyants. Cela a été envoyé uniquement à ceux qui y croient. C'est seulement pour les croyants. Il a dit, à qui? Celui qui croit, tout est possible. Pas à celui qui ne croit pas. Le moindre parcelle d'incrédulité contre la parole de Dieu et vous resterez hors du royaume des cieux. Ça en a fait sortir Ève, ça a causé tous ces problèmes. Une seule fois que vous pervertissez la moindre parole de Dieu, vous devez rester droit avec elle, c'est ce qu'elle dit. Maintenant, nous voyons que cet homme est devenu humain et enflé et que son visage est devenu rouge et s'est retourné pour le dire et ses prêtres. La première chose qu'on a su, il était recouvert de lèpre jusqu'à la... Dans la colère, il a été frappé, il s'en est jamais remis. Pourquoi? Il ne croyait pas la parole de Dieu qu'on a essayé de lui dire. Il y a un véritable exemple de cela. Remarquez, il ne croyait pas et dans sa colère, il a été frappé de lèpre et est mort chez lui. Il ne fut plus autorisé au royaume, la place d'un roi. Son fils a dû prendre sa place et l'aider du mieux qu'il pouvait et demeurer dans cet état jusqu'à sa mort. Maintenant, vous voyez, il ne s'est jamais rétabli. Jésus a dit, un mot contre cela ne sera jamais pardonné. La parole, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir, c'est impardonnable. Donc, vous voyez pourquoi le monde est prêt pour le jugement, les grands évangélistes et ces choses qui répandent l'évangile sur la terre dont on se moquait, que l'on ridiculisait et tout le reste, il ne reste plus rien. Et il n'y a aucun moyen que cela ne revienne. Ils ont blasphémé le Saint-Esprit, se sont moqués de lui et de tout le reste. Il n'y a aucun moyen de cela revienne. Il faut payer pour cela. Il n'y a aucun moyen d'y échapper. Dieu est juste. Ce serait contre sa justice, contre son être qu'il est. Et maintenant, il faudra payer pour cela. Ainsi, ce roi, peu importe combien Dieu l'aimait, quel grand homme il était, combien de diplômes il avait, quand même, il a mal agi. Il a dû récolter ce qu'il avait semé. Et chaque homme devra le faire. Alors, ce fut une leçon pour le jeune prophète, là. C'était une véritable leçon. Par cela, Ésaïe a appris que Dieu ordonne son homme à sa place, lui-même. Pas ce que quelqu'un d'autre ordonne. Dieu ordonne son homme pour le travail. Maintenant, l'ordonne à sa place. Il n'essaie pas de prendre la place d'un autre. La vision, la chose était si importante qu'elle a conduit ce prophète au temple pour prier. Je me demande aujourd'hui si nous voyons la mort des églises, de voir les gens mourir, de l'esprit retournant servir leur credo, si cela ne devait pas amener les croyants sur leurs genoux. Cela fait qu'un véritable croyant, un croyant ordonné, le prophète Ésaïe, est allé sur ses genoux, il est allé au temple, et là, il a commencé à prier. Et dans le temple, il a vu Dieu sur son trône, élevé très haut. Dieu allait lui montrer quoi regarder, non pas de nous regarder l'un l'autre, lever la tête vers ce qui est, quoi il était élevé très haut sur son trône. Notez les séraphins célestes qui recouvraient leur visage. Maintenant, les séraphins sont ceux qui consument le sacrifice, qui est l'un des ordres les plus élevés des anges. Ils viennent juste après les chérubins, c'était les anges, puis les séraphins. Puis les chérubins et les séraphins sont en fait ceux qui consument le sacrifice, ouvrant la voie pour l'approche des pécheurs en vérité, en une véritable heure de sainteté dans le temple de Dieu. Il a vu alors qu'ils étaient sur le sol à l'autel en prière. Seigneur, je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple impur. » Et il faisait sa confession. Et quand il l'a fait, il a levé les yeux, il a vu ses séraphins. Il avait deux ailes qui couvraient leur visage, et deux ailes qui couvraient leurs pieds, et deux ailes dont il se servait pour voler en criant, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Saint, 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 Dieu est entièrement Saint, 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 Saint est le Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant. » Jetons un coup d'œil à la vision que le prophète a eue et étudions-la. Deux ailes couvraient leur visage. Pensez-y, même les saints anges devaient cacher leur visage sans péché pour se tenir dans la présence de Dieu. Il leur avait donné des ailes pour cacher leur visage dans la présence du Dieu Saint. Comment vous et moi allons-nous nous tenir là si les séraphins devaient utiliser des ailes, la manière pourvue par Dieu, afin de cacher leur visage, pour se tenir dans sa présence, pour chanter « Saint, Saint, Saint » et le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Révérencieux en sa présence. Maintenant, nous n'avons aucune révérence envers Dieu. Tout le monde se sent tellement en sécurité qu'il ne respecte pas Dieu comme il le devrait. Pourquoi? Pourquoi font-ils cela? Parce qu'ils ne sont pas conscients de sa présence. C'est pour ça que les gens font cela. Ils ne le reconnaissent pas, ils ne le peuvent pas, ils ne peuvent pas comprendre qu'ils sont dans la présence de Dieu. Leurs esprits deviennent si pervertis et pris par les choses du monde qu'ils n'y prêtent même plus attention. Ils vont à l'église, bien sûr, mais de réaliser que vous êtes en présence de Dieu, pas seulement dans une église où que vous soyez, vous êtes en présence de Dieu. S'ils pouvaient faire comme David a dit, « Je mets toujours le Seigneur devant ma face. Or, je ne serais pas ébranlé. » Tant que le Seigneur était devant lui, il ne pouvait pas être ébranlé. Et ces anges célestes qui consumaient le sacrifice ayant des ailes qui couvraient leur visage et qui criaient « Saint, Saint, Saint » pour se tenir dans la présence de Dieu. Qu'adviendra-t-il d'un peuple pécheur qui n'honore pas Dieu? Vous dites, eh bien, frère Branham, vous venez de dire qu'ils avaient deux ailes, et vous avez aussi quelque chose, le sang de Jésus-Christ. C'est votre couverture. Vous ne tenez pas comme un séraphin, vous ne vous tenez pas comme un chérubin, vous ne vous tenez pas comme un ange, mais vous vous tenez en tant que fille et fille rachetée de Dieu. Par ce sang, vous n'avez pas besoin d'avoir ces ailes qu'ils avaient. Elles sont une couverture spéciale pour eux dans cette présence, mais vous avez le sang de Jésus-Christ comme couverture pour venir tenir là. Maintenant, vous, si vous avez ce sang, alors vous honorez Dieu, vous aimez Dieu, vous respectez Dieu, et Dieu est la parole. Maintenant, remarquez, deuxièmement, avec deux ailes, ils couvraient leurs pieds. Qu'est-ce que cela signifie? L'humilité devant Dieu en sa présence. Comme Moïse, au buisson ardent, a enlevé ses chaussures, qu'il a entendu dire, « Je suis celui qui suis. » Paul, sur la route vers Damas, il est tombé sur sa face. Jean, lorsqu'il vit l'Esprit de Dieu au-dessus de Jésus, il a dit, « J'ai besoin d'être baptisé par toi. Pourquoi viens-tu à moi? » Voici un bon exemple. Soyez toujours conscients de votre petitesse et non de votre grandeur. Aujourd'hui, nous les Américains, tellement que nous essayons de penser que nous sommes grands, nous faisons partie de quelque chose de grand, d'une grande organisation, quelque chose de grand qui a, d'importante, grande, 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 c'est tout ce que nous voyons. Et cela, quand une fois dans la Bible, nous en avons un exemple, il y avait un prophète retourné dans la caverne, Élie, et Dieu essayait d'attirer son attention, de sortir de là, et le feu, la fumée et les vents violents traversèrent les montagnes et le tonnerre, les tremblements de terre, les remuements et tout le reste. Le prophète n'a même jamais bougé. Dieu ne se trouvait même pas dans cela. Mais quand cette petite voix tranquille a parlé de nouveau, il s'est couvert le visage et s'est avancé. Quand la petite voix tranquille de la parole de Dieu parle, pas un vacarme, pas nos grandes dénominations, pas nos grandes quelque chose, mais cette petite voix tranquille de la parole qui est négligée, cela devrait appeler un homme à se repentir, Dieu dans sa parole. Cependant, il couvrait ses pieds et devenait conscient de sa notre petitesse devant Dieu. Troisièmement, il pouvait voler avec les deux autres. Maintenant, souvenez-vous, avec deux ailes, et couvrait son visage dans la présence de Dieu. Et pour être respectueux, deuxièmement, les deux ailes, ses pieds signifiaient l'humilité devant Dieu. Et la troisième paire d'ailes, maintenant, il se mettait en action. Il pouvait voler avec deux ailes. Voyez, deux sur son visage, deux sur ses pieds, il volait avec deux. Qu'est-ce que c'était? La révérence, l'humilité et en action. Dieu a montré aux prophètes comment son serviteur doit être préparé, respectueux, humble et en action. Maintenant, il a vu quelque chose de différent qu'Ozias a produit. Il montrait aux prophètes ce qu'il devait être. Pas comme Ozias, mais pour être comme ces chérubins célestes. Et si vous voulez, regardez un roi terrestre, regardez-en un céleste exalté au-dessus de tous les cieux, et le pince de sa robe remplissait les cieux. Là, nous voyons qu'il lui donnait quelque chose à regarder pour l'influencer directement de ce sur quoi ils avaient son attention en pensant à un homme qui a servi Dieu et a prospéré, et tout allait bien. Mais Isaïe avait son esprit sur un homme, et un homme est un échec pour commencer. Je me fiche de qui il est. Il est né dans le péché, façonné dans l'iniquité, venu au monde en disant des mensonges. Alors, il est un échec total. Je me moque de savoir s'il est un évêque, un pape, un prêtre, ou peu importe ce qu'il est, il est un échec. Pour commencer, n'ayez jamais vos yeux sur l'un d'eux. Peu importe, bien qu'il déplace les montagnes avec la foi, et bien qu'il donne tous ses biens pour nourrir les pauvres, quand même, regardez à Jésus-Christ, c'est lui, regardez-le, pas un homme. Nous trouvons maintenant qu'il montre très ici ce qu'un serviteur de Dieu doit être, comment il doit être humble, respectueux et en action. Passez à l'action. Beaucoup d'entre nous peuvent être humbles, beaucoup d'entre nous peuvent être respectueux, mais il est difficile de les faire entrer en action. Mais maintenant, nous remarquons que Dieu montrait comment il préparait son serviteur, ce qu'il devait être. Ces chérubins étaient, ou ces séraphins étaient les serviteurs de Dieu. Remarquez, comme la femme au puits, quand elle cherchait une écriture à accomplir, nous en avons parlé deux ou trois fois cette semaine, quand elle cherchait à ce que cela se réalise, la fille, pour autant que nous sachions, n'allait pas à l'église. Probablement, elle était si loin de la parole, des choses comme ça, qu'ils disaient leurs credos et leurs choses, comme Jésus a dit, vous avez pris vos traditions et avez rendu la parole de Dieu sans effet. C'est à peu près la même chose aujourd'hui. Les credos qu'on nous enseignait, et les choses ont rendu la parole de Dieu sans effet. La parole ne peut pas sortir. Et les choses dites, vraiment, elles sont tellement imprégnées avec autre chose qu'ils ne peuvent pas le voir. Rappelez-vous que cette voix ne vous entre pas seulement vous ici. Cette bande va partout dans le monde. Et je ne vous parle pas seulement à vous tous ici, mais s'il y a quelqu'un ici qui en a besoin, eh bien ça, c'est pour vous alors, voyez. Mais souvenez-vous que cette voix vous entrera tant que vous vivrez. Le jour de votre mort, cela vous entrera. Obéissez. Revenez. Nos traditions ont pris la parole de Dieu et l'ont rendue sans effet. La parole de Dieu étant manifestée, les gens se tiennent debout et disent, eh bien, je suppose que c'est plutôt bien. Voyez, oh là là, cela devrait mettre le feu à vos âmes. Cela devrait faire quelque chose, mais ce n'est pas le cas. Ça ne le fait pas. Nous trouvons que Dieu, quand cette femme, ses prêtres et ses choses, probablement elle n'est pas allée à l'église parce qu'elle ne voyait aucune raison d'y aller ou quelque chose comme ça, mais elle avait lu les Écritures. Car voyez, elle a su rapidement, quand il lui a dit quel était son problème, eh bien elle a dit, nous savons que tu dois être un prophète. Nous n'en avons pas eu depuis des centaines d'années, mais tu dois être un prophète, nous le savons. Maintenant, voyez, à mon avis, elle pensait, si vous prenez cette lecture marginale et lisez dans votre Écriture, cela se réfère à le prophète qui était Christ. Elle a dit, nous savons que tu dois être un prophète. Nous savons que le Messie, quand il viendra, c'est ces choses qu'il fera. Il sera identifié par cela. Et Jésus a dit, je suis celui qui te parle. Elle est entrée en action. Elle ne pouvait plus le supporter. La chose même qu'il cherchait était sur terre. Alors, elle l'a vu. Peu importe à quel point elle était mal en point, une prostituée ou une femme comme ça, ça ne pouvait pas, l'homme dans la rue ne voulait même pas l'écouter. Il ne le ferait pas aujourd'hui. Mais arrêtez là. Comment pourriez-vous le faire? C'était comme une maison sans feu par grand vent. Vous ne pouviez pas l'éteindre. Un feu brûlait dans son cœur. Elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit les choses que j'ai faites. N'est-ce pas le Messie? Et ça le reste aussi. Alors, Jésus n'a pas eu à faire cela une fois de plus. Les gens le croyaient parce que croyaient Jésus à cause de son témoignage à elle. Voyez, qu'est-ce que cela a fait? Elle était humble, respectueuse et en action. Elle est entrée en action quand elle a vu la chose arriver. Ces signes devraient influencer aujourd'hui, les signes promis d'aujourd'hui, la parole promise, manifestée aujourd'hui, de voir Dieu accomplir ce qu'il a dit qu'il ferait. Cela devrait nous faire faire quelque chose. Mais ce n'est pas le cas. Comme pour les Juifs, ils étaient si religieux qu'ils ne pensaient pas en avoir besoin. Ils pensaient qu'ils avaient tout. Et c'est comme ça avec le monde d'aujourd'hui. Il y a beaucoup à manger, beaucoup à porter, de bonnes églises, de grands endroits, de bons ministres instruits. Ils n'auront donc besoin de rien d'autre. Mais vous ne savez pas, dit l'Écriture, que vous êtes nus, misérables, aveugles. Ils ne le savaient pas. Ne le savaient pas. Et vous ne pouvez pas leur dire de le contraire. Ils ne cessent de patauger dans cette direction. Ils manquent de laisser la parole de Dieu les influencer pour croire que Jésus-Christ est ressuscité des morts et vivant aujourd'hui, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, se montrant lui-même vivant. Ils sont tout simplement morts, partout. Partout où vous allez, cela semble être la même chose. Cela devrait être comme ça. Par contre, vous savez, il devrait être mis à la porte de l'Église. Il n'y a aucun moyen pour que cela puisse être différent de la manière que c'est. Dieu a dit que cela en serait ainsi, mais si. Laissez cela vous secouer. Laissez-vous secouer pour la peine. Peu importe dans quel pays vous êtes, où que vous soyez, qui que vous soyez, laissez cela vous réveiller. Les heures vont et viennent. La première chose que vous savez, vous allez dire, eh bien, je pensais que cela devait être censé se produire avant l'enlèvement. Et je pourrais qu'une voix revienne. Comme on l'avait dit une fois, c'est déjà arrivé, vous ne l'avez pas su. Vous serez tous ancrés dans une église quelque part en disant, je suis aussi en sécurité que je puisse l'être. Et la même chose que vous serez, l'enlèvement aura lieu, ce sera un secret, un enlèvement soudain, personne ne saura rien, le monde continuera comme avant. Comme Noé est entré dans l'arche, vous vous rappelez après que Noé soit entré dans l'arche. Il est resté assis les 7 jours après que Dieu ait fermé la porte. Dieu a fermé la porte et Noé s'est assis dans l'arche pendant 7 jours avant que quoi que ce soit se produise. La porte de la miséricorde se fermera sur votre visage et il l'est peut-être déjà. Et pensez-y, les gens iront de l'avant en prêchant. Les gens penseront qu'ils sont sauvés, mettront leur nom sur les livres, joignant l'église, criant à sautillant. J'ai vu des Mohammedans crier. J'ai entendu les gens boire du sang d'un crâne humain et parler en langue et faire toutes ces choses. Ce n'est pas signe que vous êtes sauvés. Oh non! Ayant une forme de piété, quelle est la force dont il parle? Voyez, ces choses pourraient arriver et ce sera du passé, vous ne le saurez pas. Vous ne pouvez pas vous permettre de prendre ce genre de chance. Ne le faites pas, mes amis. Entrez pendant que vous le pouvez. Ne soyez pas influencés par un beau et grand bâtiment, par une grande organisation, par de grands érudits. Laissez la parole de Dieu vous influencer. C'est exactement ce qui a influencé ses apôtres quand ils ont vu cette parole manifestée. Cela les a influencés, nous sommes certains. Peut-être que je peux le citer à nouveau. Jésus, avec une foule de milliers de personnes, le suivait. Suivant a dit, c'est trop nombreux, regardez, il y a quelque chose d'étrange ici. Il y a un peu peu qui sont appelés, oui, beaucoup sont appelés, peu sont élus. Alors, vu la grande congrégation, il a dit, si vous ne manquez pas la chair du Fils du Fils, ne buvez pas son sang, vous n'avez pas de vie en vous, il ne l'a jamais expliqué. Je me demande s'il disait cela à Beaumont aujourd'hui, peu importe combien populaire ils étaient, que pensez-vous que des médecins et des gens cultivés et scientifiques diraient, cet homme est un vampire, eh bien, il veut que vous buviez son sang, eh bien, quel genre de, vous méritiez, t'as rien en colère. Jésus ne l'a jamais expliqué. Il voulait enlever ses parasites de lui. C'est vrai. Ensuite, ils se sont tous levés. Ils sont partis. Puis il regarda autour ses apôtres qui n'étaient pas ordonnés à la vie, mais il les avait choisis. Ils n'étaient pas ordonnés. Il a dit, que diriez-vous quand vous verriez le Fils de l'homme monter au ciel où il vient? Oh, ça leur a coupé le souffle. Qu'est-ce qu'il... Ses ministres ont dit, montez au ciel. Eh bien, cet homme est né ici, même en Galilée. Il est né à Nazareth. Nous connaissons sa mère et ses frères. Nous connaissons le berceau dans lequel il a été bercé. Nous avons vu ses vêtements de bébé. Nous parlons à sa mère. Et puis, vous dites que cet homme vient, retournera d'où il vient. Il vient de Nazareth. Pourquoi dit-il le ciel? Il ne l'a jamais expliqué. Encore trop de parasites. Ils ne sont levés. Ils n'ont plus marché avec lui. C'est ce que la Bible a dit. Puis il se retourna et dit, Vous voulez tous y aller aussi, aux 12. Souvenez-vous, ils ne pouvaient pas l'expliquer. Mais ils le savaient, ils savaient qu'il l'était. Alors ils lui ont dit, il les avait influencés par son signe confirmé de Dieu. Remarquez, il a dit, voulez-vous y aller aussi, aux 12? Pierre a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Car nous sommes certains. Maintenant, regardez, étudiez cela. Qu'est-ce que c'est? Nous savons que la parole dit pour aujourd'hui. Nous savons que le Messie est censé faire s'il vient aujourd'hui. Nous avons vu cette chose être confirmée par Dieu. Il a dit plus tard à la Pentecôte, il a dit, Jésus de Nazareth, un homme approuvé de Dieu parmi vous, par les choses qu'il est censé faire. Et vous avez pris le prince de la vie, et l'avez crucifié, et Dieu l'a ressuscité. Ce dont vous êtes témoin, remarquez, voyez, il a dit, où irions-nous? Jésus a dit, je choisis 12 entre vous, et l'un de vous est le diable. Et il n'y avait que 11 sur des milliers de milliers. 11 qui étaient là, oh là là, influencés, bien sûr. Cette petite femme, quand elle a été influencée, est entrée en action. Elle devait faire quelque chose à ce sujet. Elle devait le dire à quelqu'un d'autre. Et à chaque véritable âme qui rencontre Christ, vous devez en parler à quelqu'un. Pierre, lorsqu'il l'a prise à sa parole cette nuit-là sur la mer, il l'avait vu là, il avait été, ou ce jour-là, qui c'était, il avait pêché toute la nuit, il n'était rien attrapé pêchant. Dans deux côtés, c'était un temps de découragement. Si quelqu'un est un pêcheur, il a pêché toute la nuit. Il a été pêcheur sur son père, était pêcheur. Il avait passé toute sa vie sur ce lac et ses parents et ses grands-parents venaient de ce lac. Ils avaient, quand la lune était bonne et dans quel sens le vent soufflait et tous les signes, et il pêchait pour gagner sa vie. Il avait donc pêché toute la nuit. Il n'avait rien pris. Puis ils ont découvert le lendemain qu'ils avaient dit que ce prophète allait parler sur la rive. Et j'imagine que leur petite hutte venaient les petites femmes et ainsi de suite descendant pour l'entendre. Les foules sont devenues si grandes autour de la rive. Il a dû emprunter ce bateau, le bateau de Pierre, sortir. Il avait leur filet, pas même un seul poisson. Il les avait jetés là. Ils étaient découragés. Et parfois, en ce moment décourageant, si vous regardez, c'est là qu'ils arrivent. Mais ne soyez pas assez aveugle pour le manquer, voyez. Lorsque vous voyez tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, n'ayez pas peur, voyez. N'ayez pas peur, juste rappelez-vous seulement, il a promis de venir. Remarquez. Et maintenant, remarquez, il est venu et il a dit à Pierre, maintenant, lance-le dans les profondeurs et laisse-le aller dans le courant. Pierre a dit, peut-être que je n'ai jamais vu ça auparavant, je ne sais pas, j'ai prêché toute ma vie, les signes nous venons de pêcher toute la nuit à travers cette même eau, et pourtant, il n'y a rien. Nous avons rien pris, mais ta parole, Seigneur, voilà, je vais laisser tomber le filet à ta parole. Vous avez peut-être traversé tous les hôpitaux, frère King. Il pourrait peut-être dire que vous allez mourir. Il pourrait dire ça, ceci, ou cela, ou autre. Peu importe ce qu'ils ont dit à ta parole, Seigneur, je lancerai le filet. Quand il a vu cette parole confirmée, quand Jésus lui a dit quelque chose, il l'a cru. Il a laissé tomber ce filet dans l'eau où il n'y avait pas de poisson. Mais si Dieu l'a dit, il pouvait y mettre du poisson, comme il a mis de l'eau dans le ciel. Il peut mettre la guérison dans votre corps. Il peut, peu importe qu'il n'y ait rien là. Vous avez confiance en lui pour le relever dans les derniers jours. Et à ta parole, Seigneur, je laisserai tomber le filet. Il a tellement influencé ce pêcheur qu'il a quitté le poisson et tout le reste et a suivi Jésus. C'était une influence quand il l'a pris à sa parole. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a dit, merci Seigneur pour une grande quantité de poissons. Il a dit, laisse de côté ton filet. À partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. La porte est entrée en action. Enfin, au bout du chemin, quand il allait le crucifier, le tuer, il sortit de la ville et sur le chemin, comme le raconte l'histoire, il courait pour sa vie, sortant de la ville, il a rencontré Jésus qui revenait et il a dit, « Où vas-tu, Simon? » Ou Simon lui a dit, « Où vas-tu, Seigneur? » Il a dit, « Je retourne dans la ville pour être crucifié à nouveau. » Simon se retourna et revint. Et quand ils l'ont attrapé, il a dit, ils l'ont mis sur une croix et ils ont dit, « Ne pendez pas comme ça, mettez ma tête en bas et mes pieds en l'air. » Il avait été influencé quand il avait vu Jésus ressuscité. D'entre les morts, influencé pour sa mort, il avait été influencé pour tout. Il est entré en action, la mort ne pouvait pas l'arrêter, la crucifixion ne pouvait pas l'arrêter. Il a été influencé par Jésus, l'aveugle fut guéri. Ils ont dit de rester tranquille, mais il a dispersé sa renommée partout. Son peuple a dit maintenant, les prêtres ont dit maintenant, si quelqu'un va et assiste à ce réveil, ils viendront juste chercher leur papier d'église, c'est tout. Et le père et la mère ont peur de cela, voyez, ils ont dit, ils sont venus, ils ont dit, comment ce garçon a-t-il retrouvé la vue? Ils ont dit, il est mature, demandez-lui, il avait peur. Mais celui qui avait été guéri avait été influencé. Amen. Il a dit, cet homme est un pécheur, donne gloire à Dieu. Nous ne savons pas d'où il vient cet homme. Il n'a pas peur de quart de membre. Nous ne coopérons pas avec lui. Nous n'avons rien à faire avec lui. Nous ne savons pas d'où il vient. Nous savons qu'il est un pécheur et du diable. Cet homme avait une bonne réponse pour eux. Il a dit, maintenant, c'est vraiment une chose étrange. Il a dit, maintenant, vous êtes censés être les conducteurs du pays. Et cet homme donne la vue, et pourtant, vous ne savez pas d'où il vient. Il a dit, maintenant, qu'il soit un pécheur ou non, je ne peux pas vous le dire. Mais je sais une chose, où j'étais autrefois aveugle, je peux maintenant voir. Il avait été influencé. Il se moquait de se tenir devant les prêtres ou quoi que ce soit. Il avait été influencé. Ses parents, même les miracles sur leur propre fils, ne les avaient pas influencés, mais cela l'avait influencé lui. Les gens à la Pentecôte, comme je l'ai dit hier soir, avec leur police de vie éternelle, quand ils sont allés retirer leur dividende de celle-ci, remarquez, quand ils ont été influencés, ils avaient été saints, respectueux devant Dieu. Ils avaient couvert leur visage des choses du monde et leurs pieds dans l'humilité. Et quand ils ont senti la puissance de Dieu arriver, comme promis par Joël, comme promis par les prophètes, comme promis par Jésus, attendez là-bas, dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Dès que ce Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, est descendu sur eux, ils ont été influencés. Ils se fichaient du nombre de personnes qui se moquaient d'eux. Dans la rue, ils sont sortis titubants comme un homme ivre. Ils ont été influencés par le Saint-Esprit. Vous pouvez également être influencé. Ils se sont tenus droit. Regardez-le, il n'a pas fait le tour en disant une sorte de credo. Il est retourné directement à la parole et a dit, « Vous, hommes de Jérusalem, vous qui habitez en Judée, que ceci vous soit connu et que vous écoutiez mes paroles. Ceux-ci ne sont pas ivres comme vous le supposez. C'est la troisième heure du jour, mais voici ce dont le prophète Joël a parlé. » Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, je renverserai mon esprit sur toute chair. Ils ont été influencés par la parole. Pour la parole, cela devrait nous faire la même chose. Ils ont agi, oui, quand sa promesse a été accomplie, quand ils ont vu que Jésus leur avait promis qu'il leur enverrait la promesse de Dieu. Luc 24, 49, voici, je vous enverrai la promesse de mon Père. Mais attendez-vous, attendez-vous ne veut pas dire prier, cela signifie simplement attendre, demeurer signifie attendre. Attendez-là dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et quand cette influence du Saint-Esprit les frappa, cela les remplit, ils ont vu la parole et Jésus a promis accompli. Maintenant, je me demande si cela prendrait la même influence sur nous cet après-midi, si nous voyons ce qu'il a promis de faire dans les derniers jours s'accomplir. Quelle influence cela nous donnerait-il? Quoi? Tout ce que nous avons vu faire ces derniers jours devrait nous mettre en action, certainement que cela le devrait, avec révérence et humilité. Au-delà de tout doute, l'affirmation faite il y a 30 ans à propos d'une colonne de feu prise par les caméras, votre appareil photo Texas l'a pris il n'y a pas longtemps, la recherche scientifique à travers toutes sortes de recherches qu'ils ont pu trouver par le FBI, prise au Texas pour un Texan, lorsque vous voyez le signe. Il ne peut pas être réfuté. C'est la vérité, mais croirez-vous la voix qui suit le signe. Le signe est scientifiquement prouvé. Maintenant, un jour, quand Jésus reviendra et enlèvera les gens de la façon qu'ils sont, cela sera aussi connu. Remarquez que la colonne de feu devrait nous mettre en action, car la colonne de feu confirme sa promesse des derniers jours. Jésus a dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu, et ce qu'il fera dans les derniers jours, et voilà qu'il est ici, à la fois scientifiquement et spirituellement dans la parole qui le prouve, qu'il vient de Dieu et reste toujours le même. Il est toujours Dieu pour la promesse des derniers jours. Cela devrait nous mettre en action. Le signe de la venue sont proches. Jésus a dit ce qui arrivera à Sodome juste avant que le monde ne soit brûlé. Le monde est gentil. Ceci se répéterait. Cela devrait nous influencer et nous mettre aussi en action. Lorsque nous voyons la parole qu'il a promise à être accomplie, cela devrait nous mettre en action. Nous, comme le prophète, avons vu le résultat des dénominations qui s'exaltent perdre leur place. Je veux que ça pénètre très profondément parce que je pourrais ne plus jamais vous parler. Mais Hommes et femmes, puis-je dire ceci et vous parler librement cet après-midi au nom de Jésus-Christ, les hommes qui sont sages penseurs, les hommes qui ne sont pas prétentieux, tellement éloignés de Dieu par les traditions qu'ils ont vues, l'Église pentecôtiste. Vous avez vu les baptistes, les méthodistes, les presbytériens, vous avez vu l'Église catholique perdre sa position en Dieu, perdre leur attachement à la parole quand ils ont accepté les credos. J'ai été interviewé par un prêtre il n'y a pas longtemps et il m'a dit pourquoi il m'a interrogé sur une certaine chose. Et ces choses, il a dit, eh bien, l'Église catholique avait l'habitude de faire ça. J'ai dit, quand? L'Église catholique n'a pas été organisée avant 300 ans après la mort du dernier apôtre. Il a dit, vous essayez de juger votre cas par la Bible. J'ai dit, c'est la parole. Il a dit, Dieu est dans son Église. Et j'ai dit, Dieu est dans sa parole et tout le reste est un mensonge. Et sa parole est vraie, il a dit. Eh bien, ce n'est qu'un livre que les catholiques primitifs ont écrit. J'ai dit, alors je suis un catholique primitif. Je crois qu'il m'a dit, nous sommes une plus grande église maintenant. J'ai dit, alors, où avez-vous failli? Qu'est-ce qui s'est passé si l'Église primitive chassait les démons et prouvait que Jésus était vivant sur la terre pour les signes, les spirituels et les prodiges? Et ici, vous avez des milliers d'intercesseurs et faisant intercesseurs toutes sortes de femmes mortes et de morts et de tout. Dans la Bible, le premier pape a dit cela, il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes à part l'homme et Jésus-Christ. En perdant votre attachement à la parole et en acceptant les credos et l'exaltation par l'exhortation de l'homme, nous les avons vus perdre leur attachement au grand Saint-Esprit. Nous avons vu les pentecôtistes faire la même chose. Et vous le voyez, quand ils s'organisent, ils meurent. Il n'y a pas de chemin de retour. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en aura jamais. Dieu est contre la chose. C'est vraiment un péché, il a dit. Dans les derniers jours, il a dit, sortez du milieu d'eux, mon peuple, pour que vous ne touchiez pas à leurs choses impures, et je vous accueillerai. Comme Ozias, qu'a-t-il essayé de faire? Il a essayé de prendre la place d'un office oint, l'office oint de Dieu. Ozias a essayé d'usurper cette autorité parce qu'il était un grand homme. Nous avons vu ces soi-disant organisations ramasser tout ce qui est Dieu et essayer de prendre l'office de l'Église, l'Église ointe. Et par des credos, nous avons découvert qu'ils sont morts dans l'incrédulité. Ils ne se les relèveront jamais. Ils mourront dans le champ des lépreux avec les autres. Vous voyez là, l'homme raisonnable, l'homme croyant aux Écritures, voit cela. Si vous êtes né de Dieu, vous le voyez. Dieu identifiant si clairement la chose pour vous influencer, comme nous l'avons prêché toute la semaine, et les choses qu'il faut faire attire l'attention, cela vous influence de voir là où ils sont allés, ce qui s'est passé, chacun d'entre eux. S'ils en organisent un autre, ça fera la même chose, mais il n'y en aura plus. Non, c'est terminé maintenant. C'est trop tard maintenant. Ils perdent leurs attachements en acceptant des credos et des doctrines faites de main d'homme. Ils ont peur de simplement venir, de soutenir cela, voyez, comme Ozias essayait d'usurper la place d'un office oint parce qu'il était un grand homme. Et parmi le peuple de Dieu, il n'y a pas de grand homme. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Dieu donne à chacun de nous une chose à faire, une autre chose à faire, ce qui ne fait pas de nous de meilleures personnes que quiconque d'autre. Cela fait juste que Dieu exige plus de votre part. C'est tout. Maintenant, les effets d'une telle vision, et nous terminerons, nous commencerons à prier pour les malades. Et dans quelques minutes, maintenant, les effets d'une telle vision, qu'est-ce que les effets ont fait à ce prophète? Je m'interroge sur un prédicateur. Je m'interroge sur un évangéliste ou un pasteur. Regardez ce que la vision de ceci a fait et ce qu'il a vu, ce qui est arrivé à ce soi-disant Ozias, et puis bien qu'un grand homme de Dieu ait honoré la grande chose, ils l'ont vu mourir. Quel effet a-t-elle dû avoir sur ce prophète? Voici ce qu'elle a fait. Cela l'a amené à confesser d'être un pécheur pour... S'être associé à cela, il a confessé, « Je suis un homme aux lèvres impures, et j'habitais parmi des gens aux lèvres impures. » Le faisant un prophète, pas un prédicateur, un prophète a confessé qu'il était un homme pécheur parce qu'il s'était associé à cela. Alors quoi? Quand il a confessé ses péchés, ensuite la purification est venue. Oh, vous ne pouvez pas être purifié de votre péché avant d'avoir confessé que c'est un péché. d'avoir reconnu que c'est un péché. Ensuite vient la purification dès qu'il a dit, « Malheur à moi, car mes yeux ont vu la confirmation d'un grand Dieu. Les anges, ceux qui consument les sacrifices, sont là, et les poteaux sont ébranlés à leur voix. Et ils sont dans cette vision volant de part et d'autre. Ils avaient vu quelque chose de réel. Une vision était descendue. Il a dit, « Je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite parmi un peuple impur. » Il a dit, il a pleuré, la miséricorde, il s'est appelé pêcheur. Alors, qu'est-il arrivé? L'un des chérubins se dirigea vers l'autel et prit les pincettes et ramassa sur une pierre ardente et le mit dans sa main. Il n'a pas porté sur une pincette maintenant. Il a pris la pierre ardente, l'a mis sur sa main et vint et le posa sur les lèvres du prophète et dit, ton iniquité. Qu'est-ce que l'iniquité? L'iniquité est quelque chose que vous savez que c'est faux et que vous y tenez toujours. Lorsque vous savez que vos credos sont faux et que vous y tenez toujours, c'est l'iniquité. Mais quand il a confessé qu'il avait tort, il avait une puissance de purification. Il a pris une pierre ardente. Avez-vous remarqué comment Dieu? Nous voyons comment Dieu a mis son serviteur en ordre et ce avec quoi il l'a fixé, comment il pouvait, étant humble, respectueux, et s'est mis en action. Regardez comme il a purifié le serviteur. Il ne l'a jamais fait par un séminaire. Il ne l'a jamais fait par un tas de livres. Nous voyons ici que Dieu purifie ses serviteurs par le feu. Une pierre ardente toucha le prophète. Purifia ses lèvres, Dieu purifie ses serviteurs. Par son saint feu, pas par les livres, pas par l'éducation, la théologie, mais il a nettoyé son serviteur par le feu. Puis dès qu'il a confessé, a été purifié, ensuite vint la commission. Premièrement, il a dû confesser, ensuite il a dû être purifié. Maintenant, c'est la commission. C'est à ce moment qu'Isaïe, purifié, s'est écrié. Quand il a entendu la voix de Dieu qui a dit, « Qui enverrai-je? » Revenons dans l'histoire quand vous lisez ceci, quand vous rentrerez chez vous et que c'est arrivé à Israël. Elle est arrivée au même endroit où nous sommes. Ils avaient appelé tous leurs sacrifices et ces choses étaient devenues une tradition pour eux. Il n'y avait pas de sincérité. Ils n'honoraient pas la parole de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu a suscité Isaïe pour lui dire que les sacrifices étaient une puanteur à ses narines. Il ne voulait plus. Blasphémait contre lui. Alors, il ne voulait plus avoir rien à faire à cela. Et quand cet Isaïe a été purifié et prêt pour ensuite aller prêcher l'Évangile, et la voix de Dieu a dit, « Maintenant, il y a un besoin. Ces choses doivent être dites. » Et une voix a dit à l'autre, les anges qui volaient ont dit, « Qui enverrai-je? » Ensuite, Isaïe, avec un cœur pur, purifié, confessé, purifié et commissionné, la vision. Il a dit, « Me voici, Seigneur, envoie-moi. Envoie-moi. Me voici, envoie-moi. » Dieu envoie encore tes saints anges aujourd'hui. Trouve-t-on Isaïe quelque part? Ma prière, je ne le dis pas juste parce que je sais qu'il est ici. Quand la pierre ardente toucha le prophète, le rendant aussi pur qu'on puisse l'être, quand la voix de Dieu dit, « Qui enverrai-je? » Il a répondu, « Maître, me voici. Envoie-moi. » Il n'avait alors pas peur avec la parole. Il était un prophète. La parole pouvait venir à lui. Il était toute son incrédulité. Ses traditions avaient disparu. Il pouvait se tenir devant cet âge traditionnel et leur dire, « Vos sacrifices sont une puanteur, une narine de Dieu, et le Dieu même que vous prétendez servir vous détruira. » C'est ce qu'il a dit. « Le Dieu que vous prétendez servir vous détruira. » Et il l'a fait. Ils ont dit un signe. Il a dit, « Je vais vous donner un signe, un super signe, une vierge concevra. » Isaïe a écrit 66 chapitres dans son livre. Il y a 66 livres dans la Bible. Il commence par le début de la création et termine dans le millénium, comme le fait toute la Bible. Ce grand prophète de Dieu qui était prêt à confesser que toute leur tradition était fausse et est descendu là et s'est purifié. Ainsi, la parole pouvait venir à lui. Là, il a dit, « Je suis prêt à aller, Seigneur, je suis prêt. Je vais dire ce que tu diras. Tu me diras de dire. » Il dirait ce que tu me diras de dire. Il était prêt à aller. Dieu amène les anges à nouveau cet après-midi et le Saint-Esprit et le feu et purifie le cœur de mes frères partout. Puisse-t-il avoir une telle influence que les autres le verront et voudront suivre à vous aussi. Inclinons la tête, doucement. Quand la pierre d'ordre toucha le prophète, le rendant aussi pur qu'on puisse l'être. Quand la voix de Dieu dit, « Qui enverrai-je? » Il répondit, « Maître, Envoie-moi. Calmement, tout le monde ensemble. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Et je te répondrai aussitôt. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Et je te répondrai. Envoie-moi. Des milliers se meurent dans le péché. Entends leurs cris tristes et amers. Dépêche-toi, va vite à leur secours. Oh, réponds-lui, Maître, me voici. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Et je te répondrai aussitôt. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Et je te répondrai. Envoie-moi. Fredonnons-le tranquillement. Descendons maintenant au temple. Entends leurs cris tristes et amers. Oh, frère, viens avec moi, veux-tu? Dépêche-toi, va vite à leur secours. Ils ne savent pas quelle dénomination faire partie ou rien. Oh, réponds-lui, Maître, me voici. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Isaïe. Isaïe, es-tu ici? Et je te répondrai aussitôt. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Et je te répondrai. Envoie-moi. Je me demande, alors que nous avons la tête inclinée et nos cœurs inclinés, Isaïe, où es-tu? Voulez-vous lever la main et dire, Seigneur, me voici, envoie-moi, je suis prêt. Dieu vous bénisse. Maintenant, soyez vraiment sincères. 90% de l'auditoire. Parle, Seigneur. Parle et je répondrai. Envoie-moi. Regardez les ministres, vous qui avez levé la main. Regardez nos femmes, nos sœurs, quelle honte. Regardez nos hommes qui considèrent davantage une organisation que la parole de Dieu. Jésus-Christ se prouvant parmi eux et exactement l'Écriture si claire est rendue manifeste et pourtant il s'y accroche. Frère, quelqu'un a dit, eh bien, je n'aurais rien, je n'aurais pas d'endroit où aller. Frère, si je devais manger des biscuits soda et boire de l'eau flatte, je resterais avec mon Seigneur. Il est ma vie, il est mon pain. Vous croyez que je fais ça pour être différent? Je le fais parce que je l'aime, parce que c'est ma commission de me tenir côte à côte avec lui, avec cette parole. Oh, parle, et je répondrai, Seigneur, envoie-moi. Notre Père Céleste, alors que la musique joue doucement, que tous ceux qui sont dans la présence divine, Seigneur, voient que c'est le temps de l'appel. C'est une période de séparation, quand la balle et le blé doivent être séparés, bien que le blé ait été enveloppé dans la balle. Mais maintenant, c'est le temps de l'appel à sortir. C'est un autre exode. Je prie Dieu, comme la grande lumière du Fils a fait mûrir le grain à chaque étape de sa vie, à partir du temps comme au Canada maintenant, quand le blé est en train de sortir, ce soleil ardent de juillet le tuerait tout de suite. Mais il doit mûrir selon la manière dont la nature apporte le soleil dessus. Ainsi, le fils brûlant fait de même sur la doctrine de Luther, Wesley, et le reste d'entre eux, ça les dessèche. Mais c'est pour faire mûrir le blé. Il aurait dû mûrir, Seigneur, juste comme il est apparu. Mais souvenez-vous, toutes les branches ont été coupées de l'arbre, de l'épouse est sortie du milieu. Je restaurerai encore toutes les années que le gazam et le hasil ont dévoré le même insecte, seulement des étapes différentes. Je les restaurerai, cela dit le Seigneur. Et tu le feras, Seigneur, tu l'as promis. Je prie pour que tu le fasses dans chaque cœur cet après-midi. Ils sont à toi, Seigneur, je te les confie maintenant, et je ne les renverrai peut-être plus si je revenais dans une année. Il y en a beaucoup qui sont assis ici, si je suis en vie, ils ne le seront plus. Sans doute dans une foule de cette taille, la prochaine fois que je les verrai, ce sera au jugement. Laisse-les voir, Seigneur, laisse-les ouvrir les yeux, s'il y a une voix. Tous ceux qui parlent les bandes, Seigneur, écoutent la voix de cette époque traduite, même dans beaucoup de différentes langues, puissent-ils comprendre que les hommes et les femmes dans les petites maisons et là dans les petites jungles en Afrique, avec de petites machines, avec des tubes dans leurs oreilles, puissent-ils écouter, Seigneur, écoutez, accorde-le. Le missionnaire avait raison dans ce qu'il a dit, mais ceci est un plus grand témoin que ce qu'il avait. Il est prêt maintenant. Écoute-nous, Père, le confions tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, et pour l'appel de son épouse. Amen. Maintenant, mon frère, ma sœur, nous allons prier pour les malades. Chacun de vous qui avez levé la main, je ne peux pas l'accorder. Si je pouvais vous l'accorder, je le ferais. Certainement, j'irai là-bas où je dirais ici, vous le voulez. Je vais l'avoir. Ce n'est pas à moi de donner, c'est à Dieu. Et Dieu vous le donnera s'il y a une faim dans votre cœur. Avant qu'il puisse y avoir un appel à la profondeur, il doit y avoir une profondeur pour répondre à cet appel. Avant qu'il puisse y avoir une création, il doit y avoir un créateur pour créer cette création. Vous savez ce qu'il y a, quelque chose que vous attendez. Il doit y avoir quelque chose là-bas pour répondre à cet appel. Ne le recevez-vous pas maintenant? Ne le laissez pas mourir, s'il vous plaît, non. Je ne vous revois plus jamais de ce côté-ci du chemin, je vous verrai là-bas. Lavé et prêt, c'est ma prière maintenant que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est apparu sur la terre sous la forme d'un homme, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, enterré, ressuscité le troisième jour et est monté au ciel. Il est maintenant assis à la droite de la majesté, renvoyant l'Esprit qui était sur lui, appelé le Saint-Esprit, Dieu, venir sur les humains pour communier avec, poursuivre le ministère qui avait été exercé dans ce corps glorieux de Christ. Pour ainsi dire, pour venir avec la même forme que la pyramide, comme cela, la pierre de fête n'a jamais été posée dessus. Pourquoi? Elle a été rejetée. Mais maintenant, depuis là, l'Église est constamment devenue une minorité. Elle est apparue jusqu'à ce que tous les âges de l'Église se soient écoulés. Ça doit être affiné. Cette pierre doit être s'ajuster parfaitement. Le ministère qui était en Jésus-Christ doit être dans son Église pour que Christ vienne pour l'Église, pour ressusciter chaque âge, pour l'amener, faire ressortir cela, tout comme le blé. Le blé doit venir à la maturité comme il commence à mûrir à partir d'un gain où il a pourri, est mort et est sorti, a continué de grandir à partir de la base de quelque chose. Vous ne pouvez pas revenir de la base, ne redevenez pas ceci, ne revenez pas une tige. Continuez jusqu'à ce que vous arrivez au blé, Le blé doit être même type que le blé qui est tombé en terre quand il est mûr. Jésus est ressuscité des morts, il est mûr maintenant. Il est ici, afin que vous puissiez le voir, peut-être des étrangers. Que le Seigneur Dieu du ciel honore ce que j'ai dit à son sujet. Maintenant, j'aimerais que vous qui êtes dans l'auditoire, s'il vous plaît, que plus personne ne sorte, témoignez juste. Autant de respect au Dieu du ciel, restez assis juste un instant maintenant. Ne vous déplacez plus. Que chaque personne ici, malade ou nécessiteux, lève la main. Vous êtes d'accord? Je vous remercie. Maintenant, je ne sais pas. Je connais Frère King assis juste ici. Je viens juste de le reconnaître. Il y a quelques minutes, je suis sûr, je pensais que c'était bien lui. C'est Frère King assis ici. Il a parrainé ma dernière réunion ici, le Frère King. Je ne peux pas dire ce que je veux dire, mais vous savez que je sais ce que je veux dire. Vous êtes passé par le broyeur, mon petit frère. Dieu soit miséricordieux envers toi. Les autres, je ne les connais pas. Je vois toujours Pat Tyler assis là, ici. Je pense que c'est le seul homme dans le bâtiment ou la seule femme, le seul que je connais, c'est cet homme Pat Tyler assis là. Croyez maintenant, et si je suis le serviteur de Dieu, et si Dieu est ici et que j'ai identifié sa parole comme étant la vérité, alors que le Dieu du ciel qui a ressuscité son Fils Jésus-Christ, qui a fait ses promesses, identifié pour vous que j'ai dit la vérité, comment le fera-t-il? Pas en venant avec une robe ou une barbe, mais sa vie. Je suis le cèpe et vous êtes les sarments. La vie qui est dans le cèpe est dans la branche. Les œuvres que je fais, vous aussi, et a promis en ce jour, quand le prochain sarment pousserait, nous avons beaucoup de sarments greffés, bien sûr, ça porterait des fruits. Mais pas ce genre de fruits, oh non. J'ai vu un arbre à Phoenix il n'y a pas si longtemps, il contenait environ 8 ou 9 fruits différents. Le frère John Charrett en était propriétaire. J'ai dit, quel genre d'arbre est-ce? Il a dit, c'est un oranger, frère Branham. Eh bien, j'ai dit, il y a des citronniers, des pamplemousses et des tangelos et des mandarines. Il a dit, oui, ce sont tous des agrumes. Il a dit, je les ai greffés là-dessus. J'ai dit, oh, j'ai dit, je vois. Maintenant, l'année prochaine, ils seront tous des oranges. Il a dit, oh non, oh non. L'année prochaine, le citron sera un citron. La pamplemousse sera une pamplemousse. J'ai dit, de cette même vigne, d'un oranger. Il a dit, oui, ce sont tous des agrumes, frère Branham. Il vivra par les agrumes. J'ai senti les larmes couler sur mes joues. J'ai dit, Seigneur Jésus, je sais ce que tu veux dire maintenant. Ça y est. Ça y est, ces dénominations se sont greffées, mais elles portent des fruits dénominationnels. Écoutez, si cette vraie branche produit à nouveau, une vraie vigne produit une autre branche, ce sera de l'original, croyez-le. Merci, Seigneur, comme il l'a promis. Maintenant que tout le monde soit vraiment respectueux, je vais juste rester ici et demander au Seigneur Jésus, ceci est un don. Qu'est-ce qu'un don? Si je peux enlever mes propres pensées, je peux enlever ma propre vie, ma vie naturelle, mon âme, qui est William Branham, si je peux l'enlever du chemin, Dieu utilisera l'esprit, le corps pour parler. Que le Saint-Esprit vienne maintenant, Seigneur, qu'il puisse voir par les êtres humains que le Saint-Esprit est identifié ici, un don pour s'enlever du chemin. Que tout le monde soit vraiment respectueux, restez assis. Un homme assis juste ici. Maintenant, je veux que vous leviez tous la tête et que vous regardiez juste une minute. Pouvez-vous voir ça ici, sur cet homme? Une lumière hein, brûlante et tournoyant autour de lui. Combien ont déjà vu sa photo? Elle a été prise à Houston, vous voyez. Elle est à Washington, D.C., partout dans le monde. La seule être surnaturelle à avoir été photographiée dans le monde entier ici. Il est ici maintenant. Je prends chaque esprit ici sous mon contrôle au nom de Jésus-Christ. Cet homme souffre d'un problème de glande. Dans la gorge, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu de ma vie, mais c'est la vérité, n'est-ce pas? Monsieur, croyez-vous maintenant, l'homme là au fond, croyez-vous que Dieu me fera connaître quelque chose à votre sujet? Vous êtes Monsieur Hall, c'est votre nom, n'est-ce pas? Très bien, monsieur, c'est fini maintenant. Votre foi vous a guéri. Je pourrais appeler une ligne de prière et les amener ici sur l'estrade. On n'a pas besoin de le faire. Prenons une de ces rangées ici. Quelque part, ici. Commençons ici. Voici une petite fille assise ici. Regarde par ici, ma chérie. Peut-être qu'il n'y a rien qui ne va pas pour toi, je ne sais pas. Mais disons simplement qu'au lieu d'avoir une ligne de prière qui monte ici, ayons-la ici en bas. Regardez ici, mon cœur. Regarde, frère Branham. Dans les jours où Jésus était ici sur la terre. Oui, elle est malade. Elle est gravement malade. C'est un enfant là-bas. Oui, monsieur, si Jésus était ici, il pourrait te dire ce qui n'allait pas chez toi, n'est-ce pas? Crois-tu que Jésus a envoyé Frère Branham pour le faire? Si je te dis ce qui ne va pas chez toi, tu crois qu'il te guérira? C'est le diabète sucré. sur ce petit enfant. Aucun moyen au monde d'être guéri. En dehors de Dieu, crois-tu, chérie? Maintenant, la dame assise à côté qui a levé la main, c'est la mère de l'enfant. C'est vrai, posez votre main sur elle, ma sœur. Croyez maintenant, Dieu vous a donné cet enfant. Que le Seigneur lui accorde la guérison. Cette dame, la prochaine assise à côté de la mère là-bas. Regardez-moi maintenant, est-ce que vous croyez que je suis son serviteur, le serviteur de Dieu? Si Dieu me dit quelque chose dans votre vie ou que vous désiriez, si vous êtes malade ou si vous n'êtes pas malade ou quoi que ce soit d'autre, si Dieu me dit vos désirs, allez-vous le croire ou quelque chose comme ça, je ne sais pas ce qui ne va pas ou allez-vous le croire, vous savez que vous ne pouvez pas, que Jésus-Christ, vous êtes loin de moi, vous ne pourriez pas me toucher si vous le deviez, parce que si vous me touchiez, ça devrait être physiquement, vous devez toucher l'Esprit en Christ, il est le grand sacrificateur maintenant, dit la Bible, qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Vous souffrez aussi. Croyez-vous que Dieu peut vous me dire quel est votre problème? Vous souffrez d'un problème de dos et de sang et vous avez une pression artérielle élevée et des problèmes cardiaques. C'est exact, c'est ça. Si c'est vrai, levez la main, c'est vrai. Croyez-vous maintenant? Et vous avez votre bras autour d'elle. La dame là par là. Regardez ici. Est-ce que je suis un étranger pour vous? Est-ce que vous croyez que je suis son serviteur? Croyez-vous que ce que j'ai dit est la vérité? Croyez-vous que ce que je vous ai dit est la vérité? Croyez-vous que Dieu peut révéler vos problèmes? Quoi que cela puisse être, vous croyez qu'il pourra le révéler? Ce n'est pas vraiment quelque chose pour lequel vous voulez qu'on prie. Vous avez une carte de prière. Je la vois dans votre main. Vous êtes la première avec une carte de prière. Croyez-vous que Dieu peut me dire pourquoi vous avez la carte de prière? C'est pour votre mari. Croyez-vous que Dieu peut me dire ce qui ne va pas avec votre mari? Si Dieu ne le touche pas, il va mourir. Il a un cancer, elle a des problèmes pulmonaires, c'est vrai, n'est-ce pas? Levez la main si c'est le cas. Si vous croyez, les autres, vous croyez, il peut être guéri. Cet homme assis à côté de vous, croyez-vous que je suis son serviteur, monsieur? Si Dieu peut me révéler votre problème, allez-vous croire de tout votre cœur? Vous souffrez d'un problème cardiaque, c'est vrai? Si c'est vrai, levez la main. Très bien. La dame qui a secoué sa tête et elle-même, comme ça, assiste à côté de vous. Croyez-vous que Dieu peut me dire ce qui est votre cœur ou ce que vous désirez dans votre cœur ou quelque chose que vous priez pour quelqu'un d'autre? Vous croyez que Dieu pourrait me le révéler pendant que l'onction est ici? Et nous pouvons le voir et voir que ça doit être quelque chose de réel. Cela révèle les secrets du cœur, disant quoi tout, comme Jésus l'a dit à la femme au puits, maintenant vous souffrez aussi, vous souffrez d'un problème de dos. Le vôtre est dans votre... Levez la main si c'est le cas. Maintenant, la dame à côté d'elle, est-ce qu'elle pleure avec votre sac à main dans votre poche proche d'une robe bleue, les cheveux noirs, corpulentes. Regardez vers moi. Croyez-vous que je suis le serviteur de Dieu? Regardez ici. Vous voyez, vous êtes au premier rang. Je peux vous contacter facilement avec l'aide de Dieu. Croyez-vous que Dieu peut me dire quel est votre problème? Tout comme si vous étiez dans la ligne de prière, croyez-vous qu'il peut être ici et d'ici? Vous croyez? Vous souffrez d'hypertension artérielle. C'est vrai. Levez la main. Très bien. Vous croyez que vous pouvez être guéri? La madame à côté d'elle. Que pensez-vous, ma sœur? Regardez par ici, vers moi. Vous croyez que je suis le prophète de Dieu ou un serviteur? Vous le faites de tout votre cœur. Vous croyez que Dieu peut me décrire comme la femme au puits, comme Jésus et la femme se sont rencontrés, que cela pourrait me dire quel est votre problème? Croyez-vous? Cela vous aidera-t-il? Cela vous aidera à le croire? Regardez, oh, vous avez une chose sérieuse. C'est un fils, un garçon. Et ce garçon a une nervosité mentale. Il est à la maison. C'est vrai. Si c'est vrai, levez la main. Croyez tout de votre cœur. Le garçon va se rétablir. Vous croyez? La prochaine dame, là-bas. Vous croyez, ma sœur, de tout votre cœur, croyez-vous que je suis son prophète, son serviteur? Croyez-vous que c'est Jésus-Christ? Juste pour un don. La prophétie est un don, vous savez, un don de Dieu. Il a été ordonné bien avant la fin du monde qui ne commence. Il devait être ordonné pour ce jour. Vous n'avez aucun moyen de savoir quoi. Dieu identifie simplement l'interprète de sa parole. Croyez-vous que ce soit le cas ou que vous ayez entendu? Croyez-vous que si je pouvais dire ce qui n'est là pas, vous serez ce que ça ne serait pas moi, ça devrait être un autre. Juste ma voix, mais quelqu'un d'autre. Tout comme ce micro, il est muet jusqu'à ce que quelqu'un chose parle à travers lui. Nous sommes des étrangers, voyez-vous? Et je vous défie de le croire. Ainsi dit le Seigneur Dieu, t'exhorte, si tu meurs dans le péché, tu meurs sans mon sang sur toi. Rappelez-vous que votre sang n'est pas sur moi. Voici la vérité. C'est Jésus-Christ. Identifiez les lignes de prière ou que ce soit, soyez au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous le faites? Êtes-vous convaincu? Êtes-vous en pleine convaincu que cela doit être Jésus-Christ selon la parole de la promesse pour ce jour? Levez la main et tout le monde qui est convaincu que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Je sais que vous avez été enseigné. Vous avez été enseigné, chacun de vous, quelque chose. Et je vois que c'est tellement l'onction. Ça peut juste aller partout maintenant, voyez. On vous a enseigné que vous devez imposer les mains aux malades. C'est une tradition. C'est bien, Jésus l'a endossé. Mais ce Romain, qu'est-ce que j'ai essayé de vous apporter cette semaine? Je ne suis pas digne, dit le Romain, que tu viennes sous mon toit, dit seulement une parole. Si quelqu'un vous impose les mains, alors frère un tel m'a imposé les mains, gloire à Dieu. Je vais demander aux ministres croyants de venir ici. Alors ce n'est pas mes mains, c'est Jésus-Christ qui a dit. Ils imposeront les mains aux malades. Nous allons prier pour les malades, tout le monde. Combien y a-t-il de cartes de prière dans le bâtiment? Voyons vos mains. Oui, on vous a promis maintenant une demi-heure pour faire les choses. J'avais demandé comment ferions-nous cela, frère Perry. Avez-vous des sujets partant de ce côté-ci? Laissons cet rangé ici à l'extérieur qui a des cartes de prière. Tenez-vous contre le mur. Sortez par ici et appuyez-vous contre le mur. Et très bien, monsieur. C'est très bien. Tenez-vous de ce côté. Tous ceux du milieu, à partir de maintenant, tenez-vous dans l'allée. Voyez, tenez-vous juste dans l'allée. Ceux qui sont dans cette allée au milieu, débarquez-vous dans l'allée. Ceux de ce côté-ci, tenez-vous de ce côté-là. Ceux qui sont ici, tenez-vous debout ici au milieu de ce côté-ci. C'est bien. Ils seront là-bas pour vous donner les instructions. Je demande, c'est bon, frère Perry. Je demande au ministre qui croise en Christ que Christ guérira ses malades en leur imposant les mains, en suivant ses commandements. Je vous demande de venir ici et vous servir avec moi. Si vous croyez que ceci est la vérité, tout ministre de l'Évangile, si vous êtes un prêtre, méthodiste, baptiste, presbytérien, luthérien ou catholique, quoi que vous soyez, si vous croyez que Jésus-Christ guérit les malades et a chargé ses disciples d'imposer les mains aux malades pour leur guérison, viendrez-vous ici? Maintenant, allez à l'arrière et faites le tour, voyez. Tous ceux qui sont dans les cinq lignes, retournez, reprenez votre place, faites le tour par là, puis vous reviendrez à votre place aussi en ordre que possible. Je demande à faire si vous seriez mieux d'aller là-bas. Je pense que c'est une bonne idée. Maintenant, mieux vaut laisser ce micro ici. Laissez Roy, tiens-toi ici au micro. Oui, tu ferais mieux de venir avec moi, tu vois. À moins que tu veuilles rester ici. D'accord, Roy, tiens-toi ici. Très bien. Maintenant, vous allez... Maintenant, je veux que personne ne parle. S'il vous plaît, voyez la chose même pour laquelle nous avons prié. Maintenant, vous dites, frère Branham, pourquoi avez-vous amené tous ces ministres ici? Je vais venir avec eux, mais voyez-vous, ils ont autant le droit de prier pour les malades que moi, ou quiconque, autant que Oral Roberts, ou que toute autre hiérarchie, peu importe qui il est. Ils ont autant le droit de prier pour les malades que Pierre, Jacques, Jean et Matthieu, Marc, Luc, le reste d'entre eux. Ils sont ministres appelés de Dieu. Je viens de voir deux ou trois frères là-bas et je connais personnellement et qui ont un ministère de prière pour les malades. Maintenant, pendant que vous vous alignez ici, je veux combien dans cette assemblée sont pleinement convaincus de tout votre cœur que vous croyez que c'est la volonté de Dieu de guérir ces gens? Bien sûr que oui, certainement, c'est la volonté de Dieu de les guérir. Maintenant, comment sont-ils guéris? Maintenant, s'il était ici lui-même, il ne pourrait pas faire plus que ce qu'il fait maintenant. Croyez-vous cela? Juste ce qu'il a fait maintenant, c'est ce qu'il ferait, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Combien savent qu'il est? Saint Jean 5, 19 dit ceci, le Fils ne peut rien faire en lui-même. Combien le savent? Mais ce qu'il voit le Père faire, c'est ce qu'il fait le Fils. Vous le croyez? Alors, Jésus n'a jamais accompli ce miracle avant que le Père ne lui montre par une vision quoi faire. C'est sa propre parole. Si ce n'est pas le cas, alors nous sommes tous perdus. Nous ne savons pas où nous en sommes. Voilà. Voyez, ses paroles sont infaillibles. Regardez, il a traversé la piscine de Bethesda. Quelques heures, environ une heure avant cela, il avait de grandes multitudes de boiteux, d'aveugles, d'estropiés, de malades. Combien savent que c'est vrai? Il n'a jamais touché l'un d'entre eux. Pourtant, il était un Dieu de compassion. Croyez-vous qu'il a eu de la compassion? Laissant cette mère avec un bébé hydrocéphale, ce pauvre vieux papa, aveugle, appelant pour que quelqu'un le mette à l'eau quand elle sera troublée, un Dieu de compassion, voyez? Les gens ne savent parce que la compassion, il mélange un amour de filéo avec amour agapao. Ce sont deux amours différents, tout à fait. C'est la même chose pour la compassion, les désirs. La compassion sont différents. Mais regardez, il est allé vers un homme qui avait peut-être des problèmes de prostate ou peut-être une tuberculose. Ça faisait longtemps, il l'avait eu pour... C'était, il avait 38 ans, il l'avait eu, il n'allait pas le tuer. Il est allé à cet homme et il a dit, « Vous êtes... « Veux-tu être guéri? Combien savent que c'est vrai? » Il a laissé le reste de l'auditoire juste là. Et s'il faisait ça à Beaumont aujourd'hui, « Oh là là, la guérison divine, ce n'est rien. » Alors, voyez-vous, ils ne comprennent pas. Jésus est le même hier aujourd'hui et pour toujours. Je ne fais rien avant que le Père ne me le montre premièrement. Mais beaucoup de gens ne sont couchés dans son ombre et ont été guéris par leur propre foi. Une petite femme a touché à son vêtement et a été rétablie. Combien le savent? La guérison est basée sur votre foi. L'identification de Dieu est basée sur la promesse de sa parole, mais votre foi en son identification est ce qui vous guérit. Si vous ne le faites pas, l'homme le plus saint du monde pourrait rester debout et prier toute la journée. Cela ne ferait pas le moindre bien tant que vous ne le croyez pas. Vous-même, Jésus pourrait se tenir ici, dans le corps incarné, mettre la main sur vous et vous seriez toujours pas guéri. Combien le savent? Beaucoup de puissantes œuvres qu'ils ne pouvaient pas faire à cause de leurs incrédulités, c'est l'Écriture. Donc vous voyez, vous dans la ligne de prière, cela doit être votre foi dans la parole. Maintenant, si vous voyez Dieu faire ce qu'il a fait, écoutez, laissez-moi vous donner juste un petit témoignage pendant que vous préparez. Écoutez bien, l'avant-dernière nuit, il y a un petit ministre ici, quelque part, je l'ai vu ici, il y a quelques temps, son nom était Martin, j'oublie, il est un des commanditaires juste ici, à peu près à minuit, quelqu'un m'a réveillé dans ma chambre, un petit garçon pleurant, un petit ministre, son bébé venait de mourir, les larmes coulaient sur son visage, et il est là quelque part, quel est le nom de cette ville où il vient? Missouri, là où, Wardle, Missouri, je connais le garçon, je connais son frère ici aussi, ils sont des amis à moi, ce frère est rentré avec des larmes qui coulaient sur ses joues, il a dit, frère Branham, je viens juste d'appeler, ma femme vient de m'appeler, mon bébé vient juste d'arrêter de respirer, il a posé ses mains sur moi, il a dit, frère Branham, je crois que la parole du Seigneur est avec vous. Oh, comment Dieu pourrait-il? Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, voyez-vous. Il n'a pas confessé à moi, il a confessé la parole du Seigneur. Vous voyez que je prêchais la vérité. Il a dit, je crois que la parole du Seigneur est avec vous. Demandez-lui simplement, mon bébé vivra. Après 10 minutes, son bébé respirait normalement. Il va bien maintenant. Mon fils, quelque part, Billy Paul, était sorti pour lui parler. Et j'étais là en pyjama et environ quelques minutes plus tard, il est venu, il a dit, « Papa, regarde ici. » Et sa gorge était toute enflée et rouge et une grosse enflure enflée tout autour. Une grosse araignée noire avec une tache rouge dessus. Et je me tenais là et je parlais à Jean. Et elle m'a mordu là et regardez, ça enflé. J'ai dit, « Oh, Billy, une veuve noire, peut-être. » Et j'ai dit, regarde ta gorge et comment elle est enflée. J'ai mis ma main et j'ai dit, Seigneur Jésus, après 10 minutes, il n'y avait même pas, vous ne pourriez même pas dire qu'il y avait une plaie. Vous voyez, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un est entré l'autre jour et a dit au bureau, à l'un des employés est sorti, il a dit, dites à frère Branham de dire que mon enfant, il a dit, je crois que tu dirais, mais voyez, je ne peux pas le dire avant qu'ils me le disent. Mais ici, j'ai la parole qui dit ceci. Ces signes accompagneront ceux qui croiront. Ils imposent les mains aux malades, ils se rétabliront. Maintenant, Dieu ne peut pas faire ces choses et vous laissez rester là. Vous devez l'avoir. Vous croyez la même chose. Et cela vous arrivera, mais Dieu, vous devez le croire, pas simplement le bluffer. Vous devez y croire. Maintenant, prions d'abord, tout ensemble, et je veux que chacun de vous, tandis que les frères se tiennent ici devant ce micro, je vais là-bas pour que je puisse leur imposer les mains. Ils sont mes gens, ils sont les étoiles dans ma couronne, ils sont aussi dans votre couronne. Mes frères ministres, je viens ici parce que nous aimons et qu'ils sont les enfants de Dieu. Nous verrons les aider. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, l'homme qui pourrait dire que ta présence n'est pas ici, il y aurait quelque chose qui ne va pas mentalement, tout comme un homme qui refuserait d'accepter la lumière du soleil. Quelqu'un lui dit que le soleil brille, il courrait au sous-sol et fermerait la porte et dirait, je refuse de le croire, je refuse de le croire. Eh bien, nous saurions, Seigneur, que quelque chose ne va pas mentalement chez cet homme. Il va de même pour l'homme qui ferait taire ses entrailles de compassion et de la lumière de la parole de Jésus-Christ étant manifestée en disant, je ne le crois pas, il y a quelque chose qui ne va pas spirituellement chez cet homme. Nous savons donc que tu es là, Père, nous le croyons avec Sans aucun doute, nous voyons ton nom empreint de cela et nous voyons tes marques, nous voyons ta parole. Il y a des centaines de personnes dans cette ligne de prière et de bons hommes de Dieu se tenant ici, de grands guerriers de la foi. Je descends pour poser mon épaule avec la leur, Seigneur, lorsque ces malades passeront par ces lignes de prière. Que chacun d'entre eux sache qu'ils ne passent pas par un homme, ils viennent sous la croix de la promesse. Puissent-ils repartir d'ici guéris, repartir en se réjouissant, se rétablir, le dire à leur pasteur, puisse-ceci produire un réveil à l'ancienne mode dans ce pays, Seigneur. Amène beaucoup d'âmes à toi, Seigneur. Ils sont à toi, aide à guérir-les. Je le prie au nom de Jésus-Christ. Je veux que tout le monde maintenant, avec la tête inclinée, prie. Et je veux, comme vous écoutez, vous, dans la ligne de prière, maintenant, quand vous passez comme si vous étiez sous la croix. Croyez avec tout ce qui est en vous. Repartez d'ici en vous réjouissant, heureux, en disant, merci Seigneur, je crois en ma guérison. Et si vous n'y croyez pas, alors vous seriez tout aussi bien de retourner à votre place, car cela ne vous fera pas le moindre bien. Je veux que toute la congrégation, tout le monde, se précipite au ciel, comme cela, en la présence de Christ, Seigneur Jésus, fait. Toi connaître à nous maintenant, guéris ces malades, le feras-tu? Amen. Frère Branham, crois seulement, levons nos mains maintenant. Tout est possible. Crois seulement. Maintenant, disons-le comme ça, maintenant je crois. Maintenant je crois. Tout est possible. Maintenant je crois. Jusqu'à ce que je vous revoie, je veux quitter le Texas en les voyant crier les louanges de Dieu. Levons simplement nos mains et donnons à Dieu la louange. Chacun d'entre vous, la congrégation, crie joyeusement et loue. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole et pour ce que tu as fait pour nous. Je te remercie de pouvoir parler à ces bonnes personnes et de voir ta puissance, de tes bénédictions sur elles. Bénis-les, Seigneur. Puissent-ils comprendre et puisse le Saint-Esprit guérir chacun et sauver chacun en ce dernier jour. Par le nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te les présente pour le matériel de l'épouse, car ils croient par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. La réunion est terminée.